RKS, S comme sport. S comme
sport. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission RKS S comme sport à Grenoble sur le 97FM ou alors sur internet. Et puis bien sûr les podcasts seront disponibles directement sur le site radio-rks.fr. On va continuer à parler sport dans cette émission, mais en mode post-Covid, événementiel, sportif, c'est le thème de la soirée. Et pour en parler, on a Axel Pité, organisateur de trail comme le trail de la Dent Crawl. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on a Jonathan Rouquayrol, organisateur de trail également, de pas mal de choses. On en parlera parce que ça a été aussi annulé pour toi. Ça va ?
Ça va, merci.
Ouais, malgré tout, il a le sourire.
Ça va.
Voilà, ça va. On va en parler, on va en parler. Alors, des événements jeudi qui ont été annulés pour tous les deux, c'est ça, Axel ?
Oui, période difficile, bien qu'il faut aussi relativiser hein, par principe pour tout ce qui se passe, mais période délicate à gérer. Je suppose tant pour Jonathan que pour moi, mais on s'adapte et on cherche des solutions, des pistes de sortie, même si on attend aussi les décisions qui viennent petit à petit.
Et oui, parce que c'est à suivre au jour le jour cette affaire. Toi, ton événement, donc le trail de la Dent Crawl,
oui.
C'était quand ? C'était il y a deux semaines.
C'était le week-end dernier.
Le week-end dernier.
Oui, voilà, un trail qu'on organise avec une équipe de bénévoles. Voilà, bon, un petit coup de entre guillemets, il faisait pas super beau, mais on est habitué à ce que ce soit ainsi, il pleut souvent au trail de la Dent Crawl. Donc voilà, événement annulé, pas facile, forcément, du travail, mais encore une fois, il faut relativiser.
Et comment, parce que t'as beaucoup de gens qui étaient fidèles à ce trail.
Oui.
Comment ont vécu la chose ? Alors, tu vas les connaître maintenant un peu.
On a l'avantage, entre guillemets, ou la chance d'avoir une communauté vraiment très fidèle. Donc, on a vraiment remboursé les participants aussi au maximum de nos capacités, hein, sans faire le moindre euro. Hein.
C'est beau ça qu'on puisse parler pognon comme ça, sans tabou, ça me plaît, vas-y, continue.
Oui, ben, sans le moindre euro, on est très transparent hein, sur les frais.
Ouais,
donc, on avait aussi avec le co-organisateur, Philippe Claveau, décidé de geler les dépenses dès février, puisqu'on avait...
Ah, toi, t'avais senti le truc.
On l'avait pas senti, on s'était plutôt dit, on va essayer de retarder un maximum les dépenses.
Ouais.
Donc, c'est aussi ce qui nous a permis de rembourser... plutôt de manière élevée, entre 85 et 90% des inscriptions. Voilà, contrairement à d'autres très grosses courses.
Voilà, ça commence à balancer.
Non, mais très très grosses courses pour le coup. Voilà, mais
Dis-moi, je suis pas au courant.
Non, mais comme l'UTMB, on pourra reparler de la politique tarifaire qu'ils ont menée en termes de remboursement. Hein, voilà, c'est un autre trail, c'est une autre volonté aussi d'organisation. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes écuries entre guillemets. C'est très très gros, pour autant voilà, une question d'éthique, presque de morale derrière, de respect aussi des participants. Hein, faut pas oublier que ce sont eux aussi qui font l'événement.
Yes.
On aura, je pense, l'occasion d'en reparler durant cette heure là, mais. Voilà, c'est une question de positionnement. Nous, on travaille d'ores et déjà pour la 5e édition de l'an prochain, du coup.
Ah, t'as pas arrêté les compteurs ? Ou alors tu fais comment ? Tu vas l'appeler comment ?
Non, non, je vais l'appeler la 5e édition. Si on a arrêté, on va dire que
c'est année
une édition blanche voilà,
voilà,
un peu comme tout le monde. Mais globalement, les sportifs l'ont plutôt bien pris. Après, c'est sûr qu'on l'a annoncé, on a essayé de retarder au maximum, hein, tenant compte des évolutions, en se disant peut-être que ça peut passer.
T'as annoncé quand toi d'ailleurs ?
On a annoncé en mai, début mai, enfin mi-avril, oui, entre mi-avril et puis après les remboursements échelonnés jusqu'à début mai. Derrière, l'idée simplement qu'il y ait la course ou pas, il y avait, on en a parlé en off, toutes les questions d'organisation, d'autorisation, que ce soit la préfecture, les secouristes.
C'est du travail.
C'est du travail, c'est surtout qu'eux-mêmes aussi sont soumis aux décisions gouvernementales. Donc on attendait, ils attendaient. Et il y a un moment, un trail ou tout événement sportif, ça ne s'organise pas en claquant des doigts et en quelques semaines. Donc c'est des mois et des mois de boulot. Donc voilà, c'est une année blanche, mais c'est aussi une occasion de réfléchir, de se challenger, de penser le trail de demain, peut-être plus sobre aussi.
Voilà, on va en parler, ça, oui.
C'est l'occasion... peut-être voilà, de pratiquer notre sport autrement et d'imaginer un futur différent.
Merci, c'est beau toutes ces paroles. Ça commence très très bien pour cette heure. Si vous débarquez à l'instant, vous êtes sur RKS dans l'émission S comme sport. On enchaîne avec notre invité Jonathan Rouquayrol qui organise lui aussi des trails mais pas que. Jonathan, comment ça s'est passé pour toi ? Tu as eu la chance déjà d'avoir un événement qui a été fait cette année, c'était en février, c'est ça hein?
Exactement, ouais. Du coup, c'est vrai que...
On ne parlait pas Covid encore, pas de distance, pas rien du tout.
Pas, enfin, par rapport au début février et fin février, ça n'a pas du tout été les mêmes proportions. Ouais. Et c'est vrai que début février, on a pu organiser l'événement sans aucun souci, donc le Chartreuse Winter Trail, où bah là, en question de la question des réglementations et des autorisations, la question ne se posait même pas. Quoi.
Oui.
Les gestes barrières, on en était encore loin.
Voilà.
Et effectivement, donc là, ça a pu bien mettre le pied à l'étrier pour le début de saison. Et puis, ben, finalement, comme tout le monde, hein, les semaines sont passées. Et puis, on a un peu mieux compris l'ampleur de ce qui se passait. Notamment pour d'autres événements que j'organise.
C'était avril, toi.
C'est avril, voilà, début avril, pour la journée internationale du droit de la femme. Normalement, qui est en mars, mais on a décalé en avril avec les municipales. Voilà, donc c'est un parcours multisport, accessible à tous, hein, avec de la chasse au trésor, le trophée Vif Amazon, donc sur la commune de Vif, qui est une organisation bénévole à la base, vraiment un groupe de copines qui avait organisé ça, et elle voulait arrêter, donc moi j'avais récupéré, j'avais fait passer le message comme quoi ça, je pouvais faire quelque chose, donc organiser les roadbooks, etc. C'était chouette, ça m'a pris beaucoup de temps aussi à tout chapeauter, parce qu'entre les multitudes de micro-événements, la chasse au trésor, les énigmes, et faire travailler, voilà, et faire des partenariats avec des associations, c'était un peu costaud, mais tout n'est pas perdu en tout cas, parce que tout le package est fait, rien n'a été dévoilé, donc on va pouvoir repartir sur de bonnes bases pour l'année prochaine.
Parce que du coup, tu as pu annuler tout de suite, vu que c'était en avril, tu savais que c'était cuit de toute façon.
Très vite, ouais. Très très vite, on a pu prendre la décision. Après, ça reste une petite manifestation. Voilà, il y a 200 participantes. Ça reste tout à fait relatif en termes de... Et les inscriptions, c'est très local aussi. C'est très vifois.
Donc c'est bon au niveau remboursement,
ouais.
Et tout ça. C'était plutôt facile.
C'était facile,
après,
ouais.
Tu as eu un autre événement où il y avait un problème dessus aussi.
Alors après, donc, au mois de mai, donc, le Chartres Trail Festival. Donc là, pareil, bah, les décisions sont tombées assez vite. Hein.
Est-ce que tu y as cru quand même au bout d'un moment? Parce que je crois qu'on y croyait à un moment.
Ben,
c'est-à-dire, on se fait un mois de confinement parce que c'est toutes
ça.
Les deux semaines, on avait un truc.
Exactement, ouais. Oui, tu as tout à fait raison. Vraiment, tout au début du confinement, on s'est dit, bah, c'est bon, on va pouvoir le faire. Et puis la semaine d'après, bon, on va voir ce qu'ils vont annoncer par la suite. Et après, bah, deux, trois semaines après, on a vite pu prendre nos décisions. Après, effectivement, on parlait de l'aspect budgétaire. Là, yes. Pour le coup, bah, pareil, on essaye de faire au maximum sans faire de pécule sur le côté ou quoi que ce soit, juste pour faire maintenir la structure. Nous, ça a été des vraies questions. On a remboursé à hauteur de 75% les dossards, mais c'est pour aussi payer les prestataires.
Bien sûr, oui.
Le travail fourni, etc. L'investissement aussi des lots, des choses comme ça, qui avaient été faits pour le coup. Donc voilà, au moins rembourser la somme d'argent. Donc ça n'a pas convenu à tout le monde. Il y a des gens encore qui comprenaient pas tellement, même des montants de 75%. Mais voilà, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des prestataires, il y a des gens qui vivent de ça.
Et bien sûr, il y a des sous qui sont sortis déjà.
Qui sont sortis, voilà. Donc, il y a des choses devoir régler les factures des prestataires. Quoi.
Bien sûr, Axel le disait, hein, c'est pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas en 15 jours. Toi, tu bosses dessus toute l'année, sur tous ces événements. Donc, forcément, à un moment, c'est du travail. Donc, il y a des sous qui sortent. Après, donc, tu avais mais pas fait. Y a-t-il autre chose encore qui est en suspens pour toi?
Alors du coup, ensuite, c'est le Street Art Festival de Grenoble. Donc là,
Normalement en plein dedans.
On est en plein dedans. Alors, c'est une édition résilience. C'est vrai que normalement, cet événement, il se déroule en un mois, de début juin à fin juin. Il y a une trentaine de fresques qui sont réalisées partout sur l'agglomération grenobloise, voire même des fois plus loin. Par exemple, pour la dernière, c'était sur Voiron. Donc, des street artistes internationaux qui viennent. Notamment, l'année dernière, ça a fait la grande renommée du street art avec Shepard Ferré, donc l'Américain un peu numéro un.
Connu. Alors, on ne connaît pas son prénom et son nom. Il faut dire ce qu'il écrit parce que je pense que ça parlera plus aux autres. C'est Obey.
Obey is a Giant. Qui parle un peu plus, effectivement, qui est le visage d'un catcheur français de l'époque, qui avait la maladie du gigantisme. Et donc, il a repris le visage de ce personnage très atypique pour en faire son effigie, donc de la marque Obey. Et voilà, donc l'événement, il se déroule de manière totalement transformée et allégée, on va dire. Donc, au lieu de se dérouler sur un mois, ils étalent jusqu'à mi-juillet, en espérant la venue des street artistes internationaux de renommée aussi qui risquent de venir pour réaliser les fresques.
Voilà, là on attend de voir les frontières, si on a le droit de venir d'un pays à l'autre. Là c'est aussi affaire à suivre. On en parle encore, si vous débarquez à l'instant, on parle sport sur RKS dans cette émission S comme sport. Et on va faire une petite pause musicale, je vous ai préparé Siren Calls, c'est Cats and Trees à l'instant sur RKS. Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you, the same face every day, the sirens calling. Cat Century à l'instant sur RKS.
RKS, S comme sport. S comme sport.
Et ça continue de parler sport même pendant la chanson. Je voulais qu'ils fassent une petite pause, qu'ils aillent au ravitaillement. Mais non, Axel Pité et Jonathan Rouquayrol ont pas mal papoté entre eux. Et moi, je suis là, j'écoute patiemment et attentivement. Et c'est pas bête ce qui s'est passé hors antenne. Donc on va en parler aussi. On a parlé pognon, inscription, tout ça. Et c'est drôle parce que dans l'émission post-Covid pour les sportifs qu'on a fait la semaine dernière sur RKS, dans cette émission, les gens licenciés dans des clubs de sport comme le foot, le rugby, certains voulaient qu'on leur rembourse une partie de leurs frais justement engagés. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du coup des autres courses que les vôtres, où vous avez plutôt bien remboursé vos concurrents, vos athlètes? Les autres courses, c'est peut-être les plus connues, on a dit UTMB et certaines autres.
Je pense que la première question à se poser, ou en tout cas la réflexion qu'il faut se faire d'abord, c'est la taille de la structure.
La taille, ça compte, on le sait.
La taille, oui. La taille de la structure,
parce qu'on est entre nous, voilà.
La taille de la structure est très importante. Ce que je disais en haut, je pense que l'UTMB notamment paye un peu, entre guillemets, l'image de marque qu'ils défendent depuis des années d'être une course internationale. L'inscription quand même est très forte.
Enfin, c'est
très cher,
nous,
très cher.
C'est combien
en termes de montant? Je ne saurais même pas dire, mais c'est au moins 190 ou 200 euros.
Pour se faire mal comme ça?
Sur l'UTMB, sur la distance officielle.
Ouais. Oui, sur la distance officielle, bien sûr, sur les 168 km. Hein. Mais derrière, c'est plutôt l'industrie qui est faite et la promotion du trail qui est réalisée autour d'une course comme ça. Encore une fois, hein, c'est une question de presque de sobriété personnelle. On en parlait aussi tout à l'heure hors antenne. C'est... qu'est-ce que je veux faire? À partir du moment où vous décidez de vous inscrire à une course comme ça, vous cautionnez aussi le système qui est mis en place autour du trail running. Alors, je sais que ça va décevoir quelques copains qui sont très sympas et qui ont fait cette course.
Il s'appelle Axel Pité.
Non.
Non, mais c'est OK aussi, ils ne t'avaient pas reconnu. Voilà.
Mais c'est une question aussi de positionnement. On peut, bien sûr, faire des courses qui sont mises en valeur et portées par des entreprises. Mais encore une fois, il y a entreprise. Et entreprise, il y a, qu'est-ce qu'on peut faire aussi quand on paye une telle somme derrière, qu'est-ce qu'on peut attendre quoi. Il y a un moment, ok, c'est sympa de courir autour du Mont Blanc, mais est-ce que le trail doit devenir une industrie, à mon sens, à lui seul, doit devenir un vrai business.
C'est déjà ça, non?
C'est déjà ça, c'est une vraie question, mais il y a quand même quelques courses ou même quelques entreprises qui organisent des événements qui font de la résistance, j'ai envie de dire, parce que sinon, on n'aurait que des grosses courses. On aurait quoi? L'UTMB, les Templiers, on aurait la Saint-Élion. Je veux dire, c'est démentiel.
C'est combien de participants à la... L'UTMB, c'est quoi?
L'UTMB, c'est...
Sur l'ensemble des courses, ils sont à... Je vais pas te dire une bêtise.
Oh, je peux regarder, j'ai Google.
Ils sont à plus de 10 000. Hein,
c'est plus de 10 000, j'allais dire 10-12 000. Je crois que c'est 12 000 coureurs maintenant.
Attends, si on dit à 100 euros, le panier moyen de course, non, c'est quoi? C'est moins de 100 euros quand même. En panier moyen, tu penses? Juste pour faire les comptes, hein, comme ça. C'est...
Oui,
En fait, c'est un vrai business, ce truc. Faut faire des courses, hein, je vous comprends, les gars, c'est bon.
Et puis l'UTMB s'inscrit vraiment dans une démarche touristique aussi, avec tous les acteurs qu'il y a autour, les hébergeurs, les restaurateurs, les équipementiers qui sont ouverts pour ce week-end spécial. Bref, d'un côté, hein, il faut le concevoir. De l'autre... c'est une question presque personnelle et intime qu'il faut se poser sur quel est le rapport qu'on veut, quelle est la place qu'on veut offrir au trail aussi.
Oui, mais alors attends, parce que du coup, je ne cours pas parce que c'est dangereux pour ma santé. Voilà. Non, mais je ne cours pas vraiment en trail, mais ça vient de quatre coins de la France à chaque fois pour courir. Les gens se déplacent avec leur voiture. Donc, tu vois, je pense que le trail, c'est... Voilà, c'est
mais le trail... est un sport où on est très dissonant.
Bah ouais,
on aime la nature, on aime la montagne, mais on est capable de prendre sa voiture.
Et
on le fait tous. Hein, moi, le premier, hein, je ne suis pas du tout moralisateur. Je ne sais pas
c'est
comment ça se passe.
Tous les sports de nature, j'ai envie de dire.
Oui, oui, oui.
Qu'on a envie d'aller voir ailleurs comment c'est, de toute façon. Quel paysage on va retrouver dans le Jura C'est comme ça.
Ça, c'est une vraie question de fond. Et malgré tout, il y a des prises de conscience de plus en plus qu'on voit, qui émergent. Et notamment, là, en tout cas, j'y crois dur comme fer avec ce qu'on vient de vivre, là, avec l'urgence sanitaire. Et y a d'autant plus de prises de conscience qui sont en train d'être prises. Et j'ai encore rencontré quelqu'un hier soir de très haut placé dans une grande société avec qui j'en parlais. Il y a des grosses volontés de changement et possiblement, effectivement, on sera plus en plus... attentif à ça, à nos déplacements, à notre impact sur l'environnement.
T'as l'air d'y croire et ça me fait plaisir et j'espère que t'auras raison parce que c'est vraiment une question que je me pose à chaque fois parce que quand je vois les gars qui viennent de partout dans la région alors qu'il y a assez de monde, je pense, pour faire une petite course sympathique, mais est-ce que ces courses, justement, dans le trail de la Dent de Crawl, est-ce que toi tu rêves, par exemple, Axel, d'avoir 5000 personnes dans la Dent de Crawl ou est-ce que tu te fixes un objectif, tu dis à 1000 on va arrêter parce que...
Non, on a déjà arrêté, on a fait le plein l'an dernier.
Okay.
Ah oui, nous par exemple, sur le 42 km, on met 150 partants.
Ah, au point.
Point. Okay. Parce que je respecte les courses qui explosent les chiffres, mais entre guillemets, pour moi, quand on va en montagne, c'est aussi le trail, c'est aussi la rencontre avec soi-même. C'est la possibilité de courir longtemps, seul, en nature. Alors après, je peux comprendre que les compétiteurs, ça peut aussi... ils ont envie d'aller se frotter au Cador, d'aller faire toutes les grosses courses... Je le conçois, mais en tout cas, moi, d'un point de vue perso, j'ai toujours préféré les petites courses, bien accueillies, on discute avec les bénévoles, on discute de la vie aussi. Hein. Le trail, ce n'est pas que du sport, hein. C'est la rencontre, les partages avec les copains, les copines, et c'est aussi ça. Mais je crois que je suis assez d'accord avec Jonathan, c'est une prise de conscience aussi globale. Certains organisateurs ont essayé de pousser, en tout cas déjà pour essayer d'être sobres, mais par nature, dès qu'on organise un événement, on pollue.
Ah là, réseaux sociaux...
C'est terrible.
C'est terrible.
C'est vrai qu'on est vraiment dans un monde où même si on veut faire bien, on ne fait pas ou alors on n'existe pas.
C'est une dissonance absolue, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Et en tant que... Là, en tant que pratiquant, déjà, ça peut s'entendre. Mais encore, on n'imagine peut-être pas encore tout l'impact qu'il peut y avoir derrière. Mais en tant qu'organisateur, c'est 100 fois pire, quoi. Et c'est terrible. C'est terrible de vouloir mettre... effectivement, là, on parlait de sobriété tout à l'heure, porter à réflexion, notamment des lots participants. Enfin, chez nous, en tout cas, sur la Chartreuse, j'essaie vraiment de faire des lots locaux. Ouais. Et notamment, essayer de faire des mesures en posant des questions auprès des participants, de savoir s'ils sont prêts à ce que ce montant d'argent, j'en avais parlé la dernière fois que j'étais venu dans l'émission, mais que ce montant attribué d'argent pour les lots soit attribué à une association de protection de l'environnement et qu'on fasse réellement une vraie mission locale, alors que ça peut être auprès des scolaires, ça peut être, je sais pas, aménagement de nids pour les oiseaux, pour certaines espèces, ou de mares, que sais-je. Les idées, ça manque pas en tout cas dans ces lieux-là, et ils ont besoin de budget. Et les gens, l'année dernière, en tout cas, j'avais fait ça l'année dernière, ils n'étaient pas tout à fait prêts. Mais
alors donc, tu me dis qu'ils étaient prêts, mais finalement, ils sont pas prêts. C'est peut-être parce
c'était encore l'année dernière. Je pense qu'il faut encore du temps.
Tu penses que le Covid a fait du bien à ce niveau-là?
Il y a 3 ans, la question, même moi-même personnellement, au début où j'ai commencé à récupérer, à organiser ces événements, j'en étais pas encore là. Donc, il y a un cheminement aussi personnel à faire, à progresser. Et on ne peut pas changer radicalement du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment une prise de conscience continue. Et notamment par rapport à tout ce qui se produit, là, ce qu'on vient de vivre récemment, et notamment par rapport à ce qui est annoncé par des scientifiques et des climatologues. Enfin, je veux dire, quand on connaît les chiffres, c'est quand même extrêmement dramatique. Donc, il faut maintenant être plutôt ambassadeur par rapport à ces propos.
Oui, c'est sûr.
Et essayer de faire rayonner ça pour que les gens soient de plus en plus sensibles.
Voilà.
Et c'est vrai qu'on est dans cette recherche de nature, moi-même montagnard, et dans ma pratique, pareil, je rejoins exactement tes propos par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les grandes organisations, où moi je suis, pareil, personnellement, ce genre de manifestation, même nous en Chartreuse à Saint-Pierre, on est sur 3 jours, on a 7 épreuves, donc on limite à 1000 coureurs. On reste petit hein, quand même.
Ouais, pour 7 courses. Toi, pour 7 courses, tu veux 1000 coureurs, tu rêves pas d'avoir 10 000 personnes et d'envahir la Chartreuse et de faire un max de pognon.
Alors là, mais alors, absolument pas, d'une part. Et au-delà de ça, même si j'en aurais envie, même si au fond j'en aurais envie, logistiquement, ce serait même impossible.
Mais si, mais on rase un bout de montagne, enfin un grand parking, comme ça on accueille les gens pendant 3 jours, et puis voilà.
À Saint-Pierre, enfin le Winter Trail par exemple, on bloque à 700 sur 2 jours. On fait à chaque fois complet. Là, c'est pour une autre raison, on pourrait monter un peu plus. Mais avec la station de ski qui est ouverte pendant la vacance de février. Mais vous voyez, comme on dit, il y a vraiment des réflexions à avoir et même aller au-delà de simplement essayer de limiter notre impact sur les lots. Il y a toute une réflexion tout autour du balisage, de tout ça soit récupérable pour éviter un maximum d'impact. Quoi.
Est-ce que tu penses que, du coup, vu que vous n'êtes pas dans l'explosion de nombre de participants, est-ce qu'on pourrait faire des inscriptions avec un code postal, par exemple, ou un justificatif de domicile? Si les gens sont de trop loin, eh ben non, ça ne court pas. C'est possible, ça, ou pas?
Alors, après, ça rapporte à un autre sujet. C'est hyper discriminant et ça ramène à vraiment un autre sujet.
Ou alors, ils ne sont pas prioritaires, je veux dire. Voilà, par exemple.
Là, on élargit vraiment le spectre de réflexion. Ouais. Et notamment, il y a un truc qui est paru ce matin et moi qui me fait bondir. C'est par exemple, là, le Vernon, je ne sais pas si vous avez vu, ils sont passés interdiction à l'escalade. Ils ont fermé le Vernon à l'escalade. Est-ce qu'on doit en arriver aussi à ces pratiques? Et c'est encore une réflexion que j'ai eue ce matin avant de venir. C'est en tant qu'organisateur, c'est hyper dissonant par rapport à ma vie de tous les jours où je fais attention à tout systématiquement, ou en tout cas du mieux que je peux, et faire venir un week-end un événement où il y a 1000 personnes et qui viennent en voiture. Donc on booste au maximum le covoiturage. Mais on ne peut pas non plus tout interdire. Ça peut être aussi un vecteur de sensibilisation.
Exactement.
Et c'est ça en fait qu'il faut réussir à trouver et à faire. Limiter au maximum notre impact, mais aussi toujours, des événements, il faut qu'il y en ait, notamment, là, on parlait effectivement, traverser la France, c'est un moindre mal, il y en a qui viennent de l'autre côté du globe pour venir faire des courses, et qui prennent l'avion, etc. Mais comment on va réussir à trouver une alchimie autour de tout ça, maintenir des événements, effectivement, à petite échelle, qui est toujours du tourisme de montagne, parce que moi-même, là, typiquement, c'est mon activité, c'est ce qui fait vivre ma famille, il ne faut pas oublier, non plus, on parlait de grandes entreprises, mais ce qui me dérange aussi un peu, c'est que derrière, il y a de l'humain, quoi, malgré tout. Alors, effectivement, les grandes lignes des entreprises, des fois, où ils cherchent trop à faire du bénéfice, c'est évidemment à regarder dans les papiers et puis chez les comptes. Mais bon, c'est pas accessible à tout le monde. Mais c'est trouver cet équilibre entre on fait des événements à petite taille, on respecte au maximum l'impact qu'on peut avoir sur la faune et la flore locale, mais en même temps, toujours à ce que c'est lieu pour avoir ce rôle d'ambassadeur, en quelque sorte, avec une philosophie qu'on peut avoir pour sensibiliser les gens. Voilà, regardez où vous êtes, profitez-en, quoi. Mais faites attention. Et ça, c'est hyper dur.
Ouais,
c'est hyper.
Tu déplores des choses comme ça, justement, Axel, du mauvais comportement sur ton trail et...
Alors, je rejoins complètement Jonathan, notamment sur l'idée de.
Ils vont nous organiser un trail
coureurs,
ensemble.
Les coureurs sont prêts. Pas totalement, hein, nous on n'offre pas de t-shirt par exemple, on refuse d'offrir de t-shirt.
Pas de t-shirt de Turquie ou de Chine
Ouais, exactement. et donc de ce fait, il y a quand même chaque année des participants qui nous disent mais où est le t-shirt quoi. Enfin, le t-shirt qui généralement sert à faire la peinture après. Ou... Donc pareil, on pousse un maximum. La question de la réflexion, elle est bien, je suis d'accord. Maintenant, je pense que la réflexion, ça va 5 minutes. Il faut être dans l'action, quoi, parce que les réponses, elles se trouvent aussi dans l'action par moment, et que là, le temps de la réflexion, et je te rejoins encore en termes de chiffres, c'est tellement catastrophique qu'on ne peut plus être dans la réflexion. Il est déjà trop tard. Il y a des termes comme la collapsologie, l'effondrement qui deviennent un peu aussi tendance. Ce que je veux dire par là, la marche qu'on a, le virage qu'on a raté, c'est que le trail et les sports outdoor sont devenus d'une telle force, une telle tendance, telle mode, que derrière, on gaspille énormément d'énergie avec les réseaux sociaux, avec... Enfin, la question que je me pose, et ça m'est déjà arrivé, je me suis dit, est-ce que je cours pour moi-même ou est-ce que je cours pour faire plaisir aux autres, quoi ? Est-ce que je cours pour aller poster
ma pub, ou la vue ?
Ouais, voilà, ouais, exactement. Vue, Il y a un moment, je rappelle juste aussi, parce que ça doit nous questionner dans l'événementiel, que la pollution numérique... smartphone, internet, vidéo, photo, est supérieure à la pollution aérienne depuis 2019.
Oh, ouais, allez, d'accord.
Et c'est exponentiel.
Et ça l'a été encore pendant le Covid, quand Netflix, Facebook, Instagram sont obligés de dégrader. Ce qui veut aussi dire que tous les sportifs qui se disent « j'aime la nature, je veux protéger l'environnement » doivent certes réfléchir à « est-ce que j'y vais en voiture ?» Là, en ce moment, on voit plein de choses éclore et c'est super sur « je fais du zéro carbone, je pars en vélo de chez moi, je vais faire le sommet ». Ça a toujours existé finalement, mais là, c'est un peu mis en lumière avec le Covid parce qu'il faut se trouver des défis. Sans dossard.
C'est vrai qu'on a besoin de défis pour l'humain.
Mais il y a cette question du coût de la voiture, mais aussi cette question derrière de l'usage qu'on fait du moment vécu. Est-ce que je vis le moment pour moi ?
On savoure plus. On veut le partager, mais on le savoure peut-être
mais plus. Mais il y a du bon aussi dans le partage, de dire venez découvrir la montagne, etc. Mais quand on dit ça aussi, il y a une phrase que j'aime bien, je dis vivons cachés, vivons heureux. Et c'est vrai que quand on fait découvrir sans cesse, quand on mise tout sur le tourisme, c'est génial. Mais je suis d'accord, c'est une question. On peut faire du tourisme écologique, du tourisme un peu plus sobre. Peut-être que cette année, si on n'a pas le droit de partir à l'étranger en vacances, qu'on part en Ardèche, en Aveyron.
Donne pas les bons plans tout de suite. Parce que...
mais peut-être que déjà la sobriété, elle peut commencer par là. Une sobriété avec soi-même et après sur les courses qu'on va faire. Mais encore une fois, il n'y a pas de leçon de morale ou quoi. Je suis le premier concerné. Toujours rêvé d'aller faire des courses aux quatre coins du monde, d'aller courir au Népal, d'aller... C'est dur d'être sobre avec soi-même. On est très dissonant dans les sports de nature. On court avec des chaussures qui sont normalement pas faites en France, etc. On achète du matériel.
Pas trop en France, en tout cas.
Il y a un ProRed Light qui est en train de parler.
C'est très compliqué aussi. Derrière, on se retrouve, et nous, organisateurs aussi, on se retrouve face à des murs. Il y a un moment quand il faut faire des t-shirts pour l'équipe organisatrice.
Ah oui, mais c'est tellement cher en France.
C'est un budget inaccessible.
Ouais. J'ai voulu faire maintenant aussi, acheter un t-shirt français. Et en fait, c'est très cher. Et j'ai pas les moyens clairement d'avoir une garde-robe française.
Et donc, il y a un souci. Et c'est là où c'est tout imbriqué. Il y a un moment quand on dit aux coureurs, est-ce que vous êtes prêt à reverser une somme à une association ? Est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher ? C'est qu'il y a un moment, ils sont pas prêts à payer plus cher. Ils ne sont pas prêts.
Alors, est-ce qu'ils ont les sous pour payer plus cher ou alors est-ce qu'il faut l'inclure dans le prix
Je ne suis pas certain que ce soit une question de sous. Pourtant, une question de priorité et d'habitude. Le parallèle que je fais, c'est souvent le même avec les supermarchés. On a tellement démocratisé la nourriture qui est très peu chère aujourd'hui, qui fait que nos dépenses pour la nourriture, c'est 9% de notre budget. L'époque de nos grands-parents, c'était 29%. Ce qui veut dire par là qu'il y a un moment aussi, c'est où est-ce qu'on alloue notre argent. Et on n'a pas forcément envie de dire de l'allouer pour des choses locales. C'est plus une question de, à un moment, on a tellement abaissé avec la grande distribution, on peut tout avoir, on peut avoir une livraison en un jour.
Ouais, c'est fou.
On peut tout comparer en un jour. Qu'il y a un moment, quand il faut payer quelque chose parce qu'il y a une équipe, parce qu'il y a des humains, c'est aussi pour ça, je suis tout à fait d'accord, il y a des entreprises qui essaient de faire des choses qui sont vraiment sympas, écologiques, qui ne sont pas là juste pour faire du bénéfice. Et encore une fois, le bénéfice, c'est normal.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Mais parce que comme on a un petit problème avec l'argent,
c'est
France,
vrai qu'il y a,
faire de l'argent quand on est une course, et en gagner, c'est aussi normal parce qu'il faut payer du monde.
Parce que c'est un travail, ouais.
Parce que pour certains, nous, on est...
Tout n'est pas bénévole. Non.
Voilà,
pas
voilà, c'est ça, exactement. Tout n'est pas bénévole.
Les bénévoles sont indispensables, mais s'il n'y avait que des bénévoles, ce ne serait pas possible.
Et non. Et bien sûr, il y a des gens, c'est leur métier, ils en font toute l'année. Et il y a des familles derrière, il y a des enfants, il y a des... Enfin voilà, c'est de l'investissement. Donc, il faut réfléchir aussi à la question de où est-ce qu'on alloue notre argent. Est-ce que... C'est là où est-ce qu'on peut se dire on va aussi faire marcher la petite entreprise du coin qui organise des événements en Isère ou alors est-ce qu'on va donner de l'argent à une très grosse organisation qui, quoi qu'on le sait, si c'est pas nous, quoi qu'on en dise, ce sera quelqu'un d'autre. Soit un Japonais, soit...
Oui.
Je vise personne. Hein, soit un Américain. Donc c'est vraiment réfléchir à la question de... Aussi, il faut les trailers, il faut les remettre en cause. Hein.
Alors, j'ai envie de vous parler de ça. Si vous débarquez à l'instant, vous êtes sur RKS dans l'émission S comme sport avec Jonathan Rouquayrol et Axel Pité qui tous deux organisent des événements sportifs dans l'agglomération. J'ai la petite question parce que tu dis qu'il faut les remettre en cause, mais qu'est-ce que tout le monde voit sur son téléphone? On voit les stars du trail et autres qui sont à chaque fois, chaque week-end, aux quatre coins du monde, qui sont les premiers à tuer le monde au final. Parce que même s'ils sont super sympas et qu'ils mangent bio, ils sont aux quatre coins du monde à chaque fois. Et à chaque fois pour nous vendre des produits dont on n'a la plupart du temps pas besoin. Donc Jonathan, ton avis là-dessus sur les sportifs professionnels et l'image qu'ils ont. Est-ce qu'il y aura encore des sportifs professionnels après Covid? Et est-ce que c'est pas, comment dire... J'ai un terme, est-ce que c'est pas. J'aimerais un terme un peu plus violent, est-ce que c'est pas. Méchant, pas méchant, mais je trouve plus mon mot. Mais tu me comprends, est-ce que c'est pas. Indécent, merci Fabien, c'est moi-même. Est-ce que c'est pas indécent, maintenant, avec ce Covid, Jonathan et Axel, de voir ça?
Du coup, tu rapportes aussi à l'actualité un petit peu, parce que récemment, il y a un super athlète là, que j'aime bien suivre.
Alors, j'ai pas fait exprès, c'est qui
Thévenard.
D'accord, donc, c'est un coureur, c'est quoi?
C'est un trailer, pareil, qui a pas mal couru à travers le monde. Il a gagné toutes les courses de l'UTMB. Et il a une sacrée philosophie, notamment pour certains athlètes de haut niveau, hein, comme on a en France. Ils ont quand même des belles, très belles philosophies et des très beaux charismes. Et lui, par exemple, il a dit dernièrement, c'est une semaine ou deux, il a dit, ça y est, moi, j'arrête de prendre l'avion pour faire mes compétitions. Quoi.
C'est beau.
Donc ça, c'est très beau. Donc,
il a gagné encore de l'argent, lui, ou pas? Parce que...
Je sais pas trop. Non, il est moniteur de ski l'hiver. Après, le reste de l'année, je pense qu'il doit réussir à vivre comme les moniteurs un peu là-dessus, plus un peu de sponsoring, je pense, qui doit lui permettre d'avoir un minimum de rémunération à l'année. Mais après, quand il a les inscriptions payées, enfin, je pense que c'est le genre de personne qui, et puis il le dit lui-même, il peut se contenter de peu finalement. Il peut s'entraîner, il a du temps, il est dans l'espace, dans la verdure, en montagne, et il produit aussi en local sa nourriture. Donc c'est hyper actuel ce que tu viens d'évoquer et j'espère en tout cas que ça va apporter de nouvelles dynamiques par rapport à ça.
C'est le premier en tout cas.
C'est le premier qui a annoncé ça. Moi à titre de personnel, par exemple, là, on parlait, on veut passer à l'action. Moi, je suis extrêmement concerné par rapport à ça. Depuis, moi la dernière fois que j'ai voyagé en avion c'était en 2015. Maintenant je dis, à part si je pars plusieurs mois quelque part, je prendrai l'avion éventuellement, mais j'ai plus envie de le prendre par exemple. Et on est tous différents quand on parlait d'étapes dans lesquelles on doit avancer. Ça c'est propre à chacun et suivant de là où on part ça peut prendre plus ou moins de temps à passer ces étapes, ces caps pour limiter son impact sur l'environnement. Pour en revenir à ça aussi, passer à l'action, c'est une vraie question sur l'organisation des manifestations. J'ai envie de rebondir là-dessus quand même.
Bien sûr.
Parce que vraiment c'est une vraie question, moi je me la pose encore beaucoup. Est-ce qu'on doit essayer d'être ambassadeur par rapport à ça? On continue à organiser, on limite au maximum notre impact via plein de stratégies qu'on connaît. Mais en sensibilisant les gens davantage, ou alors comme je l'ai fait là, on est en train d'investir avec un emprunt participatif, donc déjà pour sortir un peu du système financement standard avec ma famille, pour acheter une vieille ferme là, pour se mettre ce qu'on appelle les néo-fermiers. Là, on a un peu une ambition de ça. Alors, pas faire du survivalisme comme on peut le voir et l'entendre.
On sait que ce n'est pas la solution en plus.
Non, ce n'est pas du tout la solution, mais plutôt d'accueillir, faire de la formation et sensibiliser autour de ça.
C'est parce qu'on a perdu des savoirs.
C'est perdre des savoirs.
C'est plus faire pousser une carotte, quoi.
C'est exactement. Alors que ça pousse tout seul. Mais,
oui, c'est ça.
Mais enfin, tout ça pour dire que je reste persuadé que ça va encore faire son petit bout de chemin. Après, est-ce que ce sera clairement trop tard ou pas, c'est l'avenir qui le dira. On sait que de toute façon, la meilleure chose à ne pas faire, c'est de rien faire. Donc autant faire tout ce qu'on peut, faire son petit bout de bonhomme de chemin, étape par étape, dans sa prise de conscience et dans ses actions journalières. Et pour en revenir aux événements et aux personnalités sportives... C'est vrai que c'est un vrai débat. Des fois, c'est vraiment en contradiction. Par exemple, Xavier Trévenard, qui faisait vraiment majoritairement de ses communications étaient tournées autour de la protection de l'environnement. Et puis, une semaine après, il était de l'autre côté de la planète. Donc là, c'est une vraie satisfaction de voir que lui aussi, il a décidé de plus prendre l'avion pour être vraiment en cohérence avec lui-même. Après, c'est une pression des sponsoring, du sponsoring qu'il y a derrière. Ça doit être évidemment vrai. Par rapport aux marques.
Dans quel sens tu penses qu'ils vont lui dire de voyager ou de pas voyager ?
Plutôt de voyager. Pour le moment, on est encore dans cette phase-là, clairement.
Je pense que les marques ne sont pas prêtes.
Non. Et pour en revenir, voilà, un autre sujet. Hier soir, j'ai rencontré, par rapport à notre projet d'emprunt participatif, quelqu'un qui est directeur chez Schneider. Il a 10 usines, il gère 10 usines à travers le monde. Il faisait 100 voyages en avion par an. Avec le Covid, il a pris la claque, lui, environnementale en début d'année avec les crises à venir.
Mieux vaut tard que jamais.
Mais il a envie de tout révolutionner chez Schneider. Ah, il est allé voir son patron la semaine d'après où il a pris conscience. Il a dit, mais attendez, il se passe un truc hyper grave là. On est en train de faire un espèce d'équilibre carbone dans notre société pour 2025. Mais en fait, on est complètement à côté de la plaque. Notre cinquième priorité, c'est l'environnement. Mais non, mais là, il faut la mettre en haut de la pile maintenant. C'est plus l'humain. Enfin, si, l'humain, bien évidemment, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est...
Il y a eu un réveil de conscience.
De conscience, par exemple.
C'est fou.
Donc, en plus, c'est tout récent, ça date d'hier. Mais lui, par exemple, au niveau de Schneider, il veut absolument tout révolutionner au niveau de la production, etc., pour être même bien plus qu'en impact zéro carbone se faire ambassadeur au sein de sa société pour que les gens prennent conscience de la situation.
Comme quoi, il faut qu'en fait, cet éveil de conscience, ça tombe dans la tête d'une bonne personne, et en tout cas d'une personne qui est bien placée pour faire les choses. Parce qu'après, à titre individuel, quand on est juste un être humain, pas dans une grosse boîte, pas chef d'entreprise, ça peut être plus compliqué. On peut se dire, mais attends, mon pote, il a mis la photo, il est sur le Néron, il est à la dent de croc, j'ai envie moi aussi de mettre ma photo, etc., etc. Donc ça va être très compliqué à changer. Un avis là-dessus, justement.
Sauf s'il y a des ambassadeurs, justement, ou des courses. Les organisateurs, leur rôle, c'est aussi ça, c'est de pousser pour une certaine sobriété. Alors, encore une fois, on est très dissonant.
Mais c'est ça, mais l'affaire est à suivre, cette histoire de Thévenard, il s'appelle, c'est ça ?
Xavier Thévenard.
Ça, c'est à suivre. Voir ce que les sponsors vont lui dire, voir s'ils vont aller dans son sens ou pas.
Après, pour Thévenard, que j'aime beaucoup aussi, il faut aussi relativiser, parce que lui, il est à la montagne. Quand on est parisien et trailer, ça peut paraître un peu bizarre que
on
le
fait
montagnard...
fait les côtes de Paris.
Donc voilà, il faut aussi... nous, on a une chance qui est extraordinaire, c'est de vivre quand même en plein milieu des montagnes. Et ça, quand on est parisien, qu'on vit dans 15 mètres carrés, qu'on adore le trail, et qu'on entend Xavier Thévenard qui dit ça, ou qui ne comprend pas les décisions gouvernementales qui sont prises au plan national. Encore une fois, la vie, c'est jamais noir ou blanc, c'est une dialogie avec laquelle il faut avancer. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, je pense que le rôle des organisateurs, d'être des ambassadeurs, et il faut aussi des élites, parce que les élites, quand même, elles sont suivies, elles ont du pouvoir, elles sont médiatiquement puissantes.
Ouais, on est dans le mimétisme, de toute façon.
On suit, de toute façon, maintenant, davantage les élites sportives, j'entends, plutôt que...
elles ont plus d'influence que les politiques, donc.
Exactement. Donc l'intérêt, c'est que des gens comme ça, globalement, en France, je suis assez d'accord, on pousse quand même en ce sens. Après, de toute façon, c'est une prise de conscience qui doit être collective. Et là aussi, les institutions... Et les décisions politiques et gouvernementales, elles ont du poids quand même. Enfin, il y a un moment, si on dit, pendant le Covid, ça a pu avoir du poids. Si on dit, il faut plus se déplacer.
C'est la vraie question, justement. Quand tu vois ce que ça a pu engranger comme décision gouvernementale du jour au lendemain, on
personne
arrête
sort
tout.
Et personne
et
sort.
Et voilà, complètement. Donc, on se rend compte que finalement, la politique, elle peut aussi avoir,
elle peut avoir, un
avoir une certaine influence.
Alors, qu'est-ce qu'ils attendent ?
À condition. C'est pas facile de prendre une décision. Ouais. Alors, c'est toujours facile quand c'est.
C'est d'autres échelles.
Et voilà, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, généralement. C'est toujours facile de donner des idées quand il faut les mettre en place derrière les exécuter. C'est d'autres échelles. Je vois déjà comment c'est complexe d'organiser pour 800 personnes une course. J'imagine pas pour 65 millions de Français avec des vies différentes, des caractères différents, des cultures différentes, de la mixité, etc. Donc, c'est très difficile. Par contre, le sport a toujours été un levier pour la société. Et là, il faut qu'on arrive à prendre le bon tournant. Et j'espère qu'on va y arriver avec les sports outdoor et le trail, parce qu'il y a quand même une réelle connexion avec la nature. Et il faut qu'on arrive à pousser en ce sens, en mettant aussi en place toutes les stratégies et en ayant aussi de la part des pouvoirs publics des aides quand on pousse pour ces stratégies-là, et pas juste derrière un discours politique pour dire bravo, c'est bien, vous avez un événement.
Il faut que le maire vienne, il monte sa tête.
Vous avez un événement qui est un petit peu écolo, etc. Non, il ne faut pas que des mots, il faut aussi des actes. Il ne faut pas oublier que et les petites entreprises et les associations, ben voilà, si elles peuvent se faire accompagner, aider, ou en tout cas qu'il y ait une vraie réflexion autour du sujet, ça peut être hyper important et pertinent.
Il y a des choses assez simples aussi à mettre en place par rapport au déplacement des personnes. Effectivement, tu évoquais dans le 15 mètres carrés pour un Parisien et il entend des choses de ne plus prendre l'avion. Moi, j'en connais des Parisiens qui vont faire une fois par mois, ils se retrouvent dans les Alpes, mais ils viennent en train quoi, ou en covoiturage. Et il y a des solutions alternatives qui existent, mais il faut aussi être conscient de la situation et envie de prendre à cœur et se mettre en marche, envie de dire, sans jeu de mots.
Ouais, finalement, ne nous fais pas peur, Jonathan Rouquayrol.
C'est des questions qui sont très philosophiques aussi, la question du temps. On est sans cesse dans une société où on optimise.
Et puis, mine de rien, on n'oublie pas qu'on va très vite, on ne vit plus trop l'instant, on est dans le partage et dans l'Internet. Mais on a quand même en tête, je pense, le fait qu'on est mortel et qu'au final, il faut le faire. Quoi. Si on peut le faire, est-ce qu'on doit le faire ? C'est la question. Parce que moi, je peux y aller en Thaïlande pour 400 euros, est-ce que je le fais ?
On a créé une société où il faut sans cesse être heureux et impressionnant dans ce qu'on fait, alors qu'on peut... Alors, j'en parlais avec un psychologue la dernière fois qui me disait être malheureux, c'est un état normal dans la vie, des fois, de connaître des périodes où on peut être triste, où on a moins envie. Abandonner sur une course, ça peut être quelque chose de banal. Il n'y a pas besoin derrière d'aller glisser un résumé Facebook de 400 lignes.
Toi, tu as vécu tu as lu ça déjà.
Ben oui, j'ai déjà lu un paquet de fois. Mais c'est la question du... La vraie, Jonathan a raison, c'est la question du temps. Quoi. Finalement, je prends l'avion pour aller à Paris pour le travail. Est-ce que si je prends le train, c'est finalement pas plus simple? Alors oui, ça va être plus compliqué. Ça va demander une vraie exigence avec soi-même. Il va peut-être falloir se lever un peu plus tôt. Il va peut-être falloir trouver une combinaison, changer de train.
Tarif.
C'est absolument aberrant,
les tarifs.
Là, pas pour critiquer le gouvernement, mais quand on voit les plans d'aide, d'un côté, le plan d'aide qui a été fait à Air France, proposé à Air France, et le plan d'aide à la SNCF, et qu'on nous dit, il va falloir quand même qu'on s'accroche derrière pour qu'on vienne nous parler d'écologie. Et pourtant, j'essaie d'être modéré dans mes propos, mais là, ça m'a mis sincèrement en colère.
Il y a un moment,
il faut... Voilà, si on nous dit que le train est un des moyens les plus décarbonés en termes de transport, il faut miser là-dessus.
Pas l'aviation.
Donc,
les allers-retours à 40 euros dans les îles, enfin, en proximité.
En Barcelone, c'est plus
possible.
Et en même temps, il ne faut pas que ceux qui ont les moyens de faire ça, enfin, qui avaient les moyens avant parce que c'était plus cher, soit moralisateur pour ceux qui sont entre guillemets en dessous du seuil de pauvreté. Il y a quand même 10 millions de Français en dessous du seuil de pauvreté en France, qui pour une fois qu'ils peuvent voyager et découvrir le monde, parce que c'est peut-être aussi pour ça qu'on pense aujourd'hui de cette façon, c'est parce qu'on a eu la possibilité de découvrir le monde et de comprendre la complexité du monde dans lequel on évolue. Ouais. Parce que j'aime toujours les gens qui gagnent plusieurs milliers d'euros et qui disent « faut pas prendre l'avion maintenant, etc. » et qui vont dire ça alors que finalement... ceux qui prennent l'avion, ils ont une empreinte. Enfin, les pauvres, notamment en France, où eux, ils font les trails à côté. Ouais. Eux, ils vont en cours. Quand ils vont en vacances, ils font 200 km, ils vont au camping. Ouais. Eux, ils n'achètent pas sur Amazon. Eux, ils n'ont pas Netflix. Eux, ils ne changent pas de télé tous les 4 ou 6 ans. Mm. il faut, voilà, il faut quand même se poser. C'est là où la complexité, et c'est aussi le rôle des organisations, des sportifs, c'est d'impulser une philosophie sans être trop moralisateur ou pédant presque.
Ou dogmatique. C'est très délicat.
Mais est-ce qu'on peut le faire sans interdire ? Moi, je pense pas. Hein,
ben, voilà, c'est la question de...
Je pense pas qu'arriver à se raisonner soi-même, c'est tellement dur.
Mais c'est dur aussi d'infantiliser les gens. C'est très dur, bien sûr. Tu peux pas non plus. C'est un sujet extrêmement complexe qu'on touche là et très 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 large, extrêmement large.
Ouais, mais faut se faire violence quand même parce que pour un exemple, il y a un organisateur de trail de course, qui il y avait une grande marque de boissons d'eau qui lui filait gratuitement des palettes pour son événement où il y avait 800 personnes. Il s'est fait violence, il s'est dit non, pas de bouteille, on va faire avec nos jerrycans et les gens auront leurs Eco Cup.
Je vois que j'ai été sollicité. Oui. Je pense comme beaucoup de manifestations qui se laissent trop tenter.
Alors, donc vous n'avez pas craqué vous aussi ?
Ah ben si, moi il y a des par rapport à ça, je vois des trucs passer, des actions d'entreprise qui veulent mettre en place des chartes d'écologie durable. Et d'un autre côté, une semaine après, tu reçois un mail. On va recevoir les bouteilles là. Vous êtes tous d'accord, on fait livrer les palettes. Ah, non, mais attendez, c'est quoi ton truc que t'as fini une semaine?
En tout cas, c'est jamais simple d'être irréprochable jusqu'au bout. Nous-mêmes, des fois, quand on est obligé d'aller à un endroit pour tronçonner parce que on peut plus passer, il faut nettoyer un petit peu. Il faut le faire, par touche. Hein. On dit souvent que la dose fait le poison. C'est exactement ça, y compris en événementiel.
Parce que c'est très polluant, et pour
en revenir à ça, justement, on sera jamais irréprochable. Par contre, ce qui est intéressant à voir, et là c'est encore un autre sujet, mais c'est connaître son impact. Enfin, pour moi, en tout cas, ce qui m'a fait vraiment prendre conscience, il y a déjà pas loin de 10 ans, je pense, c'était mon impact carbone que j'avais. J'avais mesuré mon impact carbone.
T'as vu qu'il fallait 5 planètes pour vivre comme tu vivais, t'as dit oulah.
Non, peut-être pas.
C'est bon, t'étais déjà
sobre.
Non,
ça va, j'étais. Bon. À part, vraiment, ce qui pompe tout, c'est les voyages. Et comme on est tous, quand on commence à voyager un petit peu, quand on se donne les moyens, après, c'est une histoire aussi budgétaire. On peut vivre de pas grand-chose. Et si on décide de vraiment faire à ce que sa priorité, c'est de voyager à travers le monde, l'enveloppe budgétaire, tu peux réussir à le faire après.
C'est vrai qu'un smicard peut voyager maintenant avec.
On est quand même toujours pareil, hein, toute proportion gardée, on est quand même dans des situations socio-professionnelles, et même moi plus jeune, même si j'ai pas mal travaillé, où on avait la possibilité de travailler, de trouver du travail et avoir une certaine rémunération qui permettait de mettre ce pécule de côté pour voyager. Mais. C'est vraiment. Pour moi, ça, c'est une des bases, c'est essayer de faire. Une manière de faire prendre conscience des gens de la situation, enfin, c'est clairement son impact carbone CO2 et de combien on mange de terre par personne, personnellement en tout cas. Combien est-ce que moi je consomme de terre à la fin de l'année
C'est combien par personne d'ailleurs
en France, c'est quand même pas mal. Hein.
En tête, c'est l'Australie. En tête, c'est l'Australie.
Ça dépend si t'englobes les Émirats.
Parce qu'il y a la clim dans la rue. Ouais, donc
complètement.
Et puis l'extraction du pétrole là-bas.
Mais ça revient encore une question de. Ça rejoint une question de fond sur le temps. Qu'est-ce qu'on fait et la facilité. On est dans la société du gratuit aujourd'hui aussi.
En plus, oui.
Je pousse pas un autre modèle. Hein, je dis pas qu'il faut tout faire payer. Mais qu'est-ce que vous voulez quand vous avez 3 steaks hachés pour 3 euros qui ont été...
On ne sait pas s'il y a de la viande d'ailleurs.
Que derrière, quand vous allez voir le petit boucher du coin ou la petite ferme, et en fait, finalement, c'est un peu plus cher. Mais c'est...
Manger moins de la viande.
Où est-ce que je décide de mettre de l'argent, etc.
On arrive à avoir des budgets encore. Comme ça parce que c'est perfusé par les aides de l'État. Il ne faut pas l'oublier. Les agriculteurs, aujourd'hui, vivent des perfusions de l'État. Il y a quelque chose de... pour moi perso qui est absolument pas normal, mais en même temps il faut nourrir les gens d'un autre côté
et en même temps voilà, on pourrait rester dans une agriculture, en tout cas pour ce qu'on pousse là, locale, raisonnée, bio, pour 65 millions de Français, est-ce que le modèle écologique il est scalable, autrement dit est-ce qu'on peut l'accroître sans, on va le dire clairement, faire de la merde après, hein, parce que
c'est ça, comme disait Jean-Pierre Coff, c'est ça.
C'est voilà. est-ce que c'est possible? Ça, c'est en tout cas, moi, c'est une question qui m'interroge où je me dis si on vulgarise, si entre guillemets on déploie le modèle local, il faut manger local. Est-ce qu'on y arrivera? Est-ce qu'on y arrivera à grande échelle?
Il y a 50 ans, il y avait 60 millions d'agriculteurs en France. Aujourd'hui, on a moins de 10 millions. Il y a un des chemins, effectivement, de la réponse avec ça, revenir à la terre. Enfin, moi, j'en suis personnellement convaincu.
C'est pour ça qu'on a
un projet
bien sûr.
Tel que être néo-fermier.
Alors, revenir à la terre, oui.
Moi, mais je... il faut.
Ouais. Ouais, c'est une excellente idée, mais est-ce qu'après, on est capable, dans nos mentalités, de revenir à ce modèle-là.
Parce que le travail de la Terre, ce n'est pas le travail qu'on a au bureau.
Ah, absolument pas. Voilà, ce n'est pas donné à tout le monde.
Ce n'est pas donné à tout le monde. Puis est-ce que tu veux te priver d'orange ou de banane? Parce qu'on mange des bananes toute l'année. Des fois, je me demande si ça ne pousse pas dans mon quartier, parce que je peux en avoir toute l'année si j'ai envie. Donc, c'est quand même dur de dire...
C'est important d'ailleurs du coup, de faire la distinction pour les trailers, les sportifs et tous ceux qui nous écoutent entre écologie et local.
Ah oui, ça n'a rien à voir.
Pour avoir accompagné du coup en communication quelques maraîchers, ce n'est pas du tout la même chose. Ils sont assez sévères avec le terme d'écologie, de bio, notamment de bio.
Qui va de l'autre côté de la planète.
Le label, ou quand on va à Grand Frais ou je ne sais quoi chercher sa banane, ou son kiwi de Nouvelle-Zélande. Donc, c'est encore une fois une question de sobriété, une question de comment on nous a habitué à manger des bananes toute l'année, des bananes en décembre.
C'est hallucinant.
On est habitué. Et il faut se poser la véritable question du sens de nos actions au quotidien, mais c'est de l'exigence. C'est de l'exigence personnelle et c'est un cheminement. Hein. C'est clair que c'est un vrai cheminement et pas sûr quand même. Il y a des élites qui s'élèvent, mais pas sûr avec tout ce qu'il y a à la télé et tout. Qu'on nous pousse vers ce cheminement-là et pas plutôt vers une société ultra-capitaliste, sans avoir des discours d'extrême-gauche ou quoi, pas du tout, hein, mais en tout cas, sur des... Enfin, je le vois, hein, je suis un formateur à l'université, dans les syllabus, dans les programmes, on parle très peu d'écologie, peu importe le domaine, même dans le commerce, hein, que ce soit dans le commerce, on parle très peu d'écologie, très peu de sobriété. Ce qui est important, c'est de sortir, de trouver un travail,
De faire des start-up, on est toujours dans l'innovation alors que je pense qu'on a fait quand même
parce
que
on a ce mythe et cette croyance dans le monde que la technologie peut sauver la planète.
Beaucoup les cornucopiens comme on les appelle,
c'est ça. Donc il y a des, je rejoins entièrement Jonathan, il y a des vraies questions de fond et de cheminement avec soi-même.
Alors là, si vous débarquez à l'instant, vous êtes dans une émission sur RKS 97FM, S comme sport, c'est l'émission où on parlait d'événementiel, de post-Covid, de sportif pendant le Covid, après le Covid, comment ça va se passer. C'est une émission, personnellement, que je trouve exceptionnelle grâce à mes invités, parce que il y a que qui parlent depuis tout à l'heure, et c'est magnifique, on en est presque à une heure d'émission, mais j'ai quand même envie de continuer avec vous, parce que c'est juste énorme ce que vous dites. J'ai envie de vous balancer deux, trois trucs en disant... Déjà, on ne fera pas la pause musicale, parce qu'on n'a plus le temps, mais est-ce que... Les coureurs peuvent être aussi sobres en équipement, parce que même si, sans parler des chaussures à 100 euros qui peuvent être peut-être aberrants, il y en a à 30 euros, mais elles sont quand même fabriquées à l'autre bout du monde, ce qui est dramatique dans tous les cas. Mais est-ce que pour courir, on a besoin de la montre connectée? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des courses où on se dit, bah non, on n'est pas habillé à plus de 100 euros, ou on n'est pas avec une montre connectée, vous n'avez pas besoin de savoir l'heure, vous n'avez pas besoin de... Est-ce qu'on peut faire des événements comme ça? Parce que je pense qu'il faudrait être dans l'interdiction au début pour faire prendre conscience aux gens que... Je cours sans ma montre connectée et c'est possible.
Toujours pareil, c'est le terme j'aime pas, mais on est dans, à mon avis, transmission de l'information, dans de l'éducation. Je pense que tous les trois autour de la table, on s'est déjà tous pris la bonne pioche dans la tête quand on a réellement compris là où on allait au niveau de la crise climatique et environnementale. Les nuits blanches, on est passé par là. Et du coup, on peut pas non plus. Interdire, je sais pas.
Mais est-ce que les dés sont pas jetés? Parce que les mecs qui ont 30 ans et qui courent, ils veulent leur montre connectée.
Mais c'est clairement.
Les dés sont jetés. Donc est-ce qu'il faut pas interdire dans vos traits? Vous dites, ben non, les gars, on part light, mais pas light.
Sur nos événements, tu penses?
Est-ce que toi, tu te vois faire ça et tu dis, mais vous avez une puce, votre temps, vous l'aurez. Et vous soyez concentrés sur la ligne de départ. Pas tout le monde est sur sa montre. Sur la ligne de départ, j'ai vu des gars, ils sont comme ça sur leur montre.
Et surtout sur Strava derrière. Très important.
Alors Strava, je ne connaissais pas parce que je suis à la rue niveau sociaux et tout ça, mais c'est dramatique aussi ce travail. C'est bien, mais c'est toujours pareil. Il y a l'envers du décor, quoi.
Il y a toute proportion gardée. C'est une question de dose, parce que c'est vrai parlait tout à l'heure de la sobriété numérique. Entre regarder des séries toute la journée sur Netflix en flux continu, en ultra HD, et poster de temps en temps un message ou envoyer des mails, les proportions sont quand même complètement. Comme j'en revenais, en fait, ce qui serait vraiment très important à mettre en place, c'est des choses un petit peu qui existent, mais apparemment, même c'est pas totalement globalisé, tout n'est pas bien précis, c'est son impact carbone personnel. Et ça, je pense que déjà, si on arriverait à chacun à voir ça, par contre, ce serait quelque chose d'obligatoire, de connaître chacun individuellement son impact carbone, et de qu'on ne dépasse pas, clairement, une fois que tu as dépassé ton nombre de tonnes, je crois que c'est une tonne et demie par personne, maximum.
C'est ça.
Une tonne et demie de CO2 par an par personne qu'il faut émettre. Sinon, on mange la terre, clairement, on dépasse, elle n'est pas capable de se ressourcer par elle-même. Eh bien, stop, tu as dépassé ton quota, tu as un crédit, mais c'est triste, hein, c'est des propos, comment dire, c'est dictatorial, quoi.
Ouais, mais le monde est fini, donc.
Mais à un moment donné, c'est ça, on est face à quelque chose, et c'est ce que je répète tout le temps, c'est. Il y en a, ils sont un peu surpris par mes projets et certains propos. Hein. Je pense que c'est vous aussi. Vous
avez tu choqueras les auditeurs, c'est pas grave.
Mais c'est.
Je suis entièrement d'accord. En 2050, on sera près de 10 milliards.
Ce qui paraît, ouais. Incroyable.
A priori, on sera près de 10 milliards. La Chine est revenue sur sa politique de l'enfant unique, etc. Il y a un économiste, et on va continuer de choquer, ou en tout cas de susciter des réflexions. Il y a un économiste qui a créé ce qu'on appelle l'équation de Kaya. Et qui a dit, si on veut vivre encore d'ici 2050, il faut supprimer un tiers de la population mondiale.
Pas moi, Prums, j'ai dit avant.
j'ai pris mon billet.
À condition de garder le même rythme de vie. Sauf qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus dans la société du plus que dans la société du moins.
Ah, qui le dit-il ?
Mais il y a des tonnes de sujets. J'écrivais encore un article sur ça récemment, sur la 5G. C'est pas simplement mettre des antennes en plus. C'est tout.
Non, c'est toute la big data qu'il y a derrière.
La big data. Il faut renouveler 80% des parcs de téléphones.
Que vont te dire les gens ? C'est pas l'antenne en elle-même.
J'aime bien parce que ça, c'est un sujet global, le sport, et ça me plaît beaucoup, mais on continue. Les gens vont te dire qu'ils n'ont rien à cacher. C'est ça le problème. Donc ils s'en foutent de la data. C'est ça le problème.
Mais
donc soit qu'ils communiquent facilement leurs courses, leur temps, leurs photos.
Je peux vous assurer que ces données-là.
Ah oui, je sais.
Pour bien connaître le milieu, il y a de la revente derrière qui est réalisée. Oui. Mais pour revenir sur la question de l'équipement, de la sobriété, nous, modestement, on avait ici au Trail de Landcrawl plus de bâtons, plus de ravitaillement. On essaie. Juste, en fait, l'idée, c'était plutôt de. Pas tant dans cette idée de sobriété en termes de matériel, de reconnexion à la nature, parce qu'il y en a, ils viennent, regarde, c'est l'équipement, quoi. On a l'impression que c'est un défilé, quoi. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout si tu as un t-shirt cochonou et une paire de chaussures à 30 euros, fais-toi plaisir, cours, quoi.
C'est
pas ta paire de chaussures à 150 ou 180 euros, quand même.
Tu vas te faire quoi plus vite.
Ah, bien sûr, après, quand on est dans la performance, on va jouer sur du détail.
Est-ce que c'est pas ça le problème ? Est-ce que c'est pas d'être toujours dans la performance ? Parce qu'on sait qu'à un moment, ça monte, mais à un moment. Ça va vraiment commencer par descendre.
Le problème, c'est pas ceux qui sont très performants. Eux, généralement, ils ont une certaine humilité, d'ailleurs, quand on discute avec eux. C'est ceux qui sont bons et qui pensent que le matériel va faire qu'ils vont être très, très bons. On en parlait tout à l'heure avant le début de l'émission. Donc, il faut essayer d'être sobre, privilégier un maximum les circuits courts. Mais là aussi, il y a des choses qui nous dépassent. On est tellement dans une économie mondialisée qui fait que ben voilà, y a un moment, il y a des spécialisations par pays. On sait que l'Asie, c'est le textile, etc. Et c'est difficile maintenant de relocaliser parce qu'il y a un moment.
Ils ne savent plus faire.
C'est la vraie valeur des choses. On en redisait tout à l'heure. Relocaliser, le prix du t-shirt, on en parlait tout à l'heure.
C'est ça. J'ai essayé.
Ton achat, c'est pas pareil. Hein. Ouais. Ton t-shirt à 10 euros, non.
C'est ça. Et puis la paire de chaussettes qu'on va chercher dans une grande enseigne de sport à 2,50 euros ou à 3 euros.
C'est clair. C'est ouf.
Et on se dit, on s'en fout. Elle me fait 5 ou 6 utilisations. Et puis après,
tu marches par terre, tu fais ce que tu veux avec.
Donc, et encore une fois, loin de moi, et je pense pareil pour Jonathan, d'être moralisateur, c'est très difficile de trouver
le juste milieu.
C'est un métier aussi.
Mais il faut aussi. J'ai acheté un très bon bouquin sur la collapsologie heureuse.
Sur Amazon ou pas ?
Non, je vous conseille un très bon livre de Loïc Stéphan où il faut aussi arrêter de se blâmer à chaque fois qu'on fait quelque chose de mauvais. Alors là, on dérive peut-être sur des sphères un peu psychologiques.
Il n'y a aucun souci, on est dans le sens où
ça peut rendre malheureux aussi. Hein. Ça me rend triste de me dire j'ai envie d'aller là-bas, j'y vais pas. En même temps, j'ai travaillé dur pour y aller. En même temps, non, il ne faut pas y aller. Mais pourquoi nos aînés, ils ont pu aller là-bas ? Pourquoi non ? C'est dur.
Mais ne serait-ce que pour moi personnellement, c'est ne serait-ce que dès que je prends ma voiture.
Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça,
après, moi, 80% de mes déplacements sont en vélo parce que je travaille
pas. C'est des réflexions. Derrière le sport aussi, il y a la relocalisation de notre espace, d'où est-ce qu'on travaille, en fait, le choix qu'on fait. C'est bien, par exemple, de dire je connais bien la situation de Bordeaux aussi, mais le nombre de Parisiens qui habitent à Bordeaux, qui font tous les jours, ou l'inverse, Bordelais qui travaillent à Paris, qui font l'aller-retour tous les jours, parce qu'on accélère aussi toujours cette idée du temps, les moyens de transport. Mais eux, ça leur pose pas de soucis.
Si c'est en TGV, ça va. Mais...
Oui, c'est en train, bien sûr. Mais donc, toujours cette idée de vitesse qui va d'ailleurs un peu. Contre le sport, en tout cas une des possibilités avec le sport, d'être tout le temps performant, d'aller plus vite, de chercher l'optimisation de tout ce que l'on fait. Mais c'est dur parce qu'on nous a appris, et moi j'ai 28 ans, pendant mes études on m'a dit il faut être performant. on parlait de retour sur investissement, de ouais. C'est pas voilà la carotte, il y a pas de possibilité, c'est pas elle pousse ou elle pousse pas, c'est elle pousse.
Elle pousse pour pas cher et vite.
Et elle pousse pour pas cher, elle pousse vite et t'es capable de reproduire ce modèle quasiment à l'infini. C'est quand même un petit peu comme ça qu'on forme la plupart des étudiants, peu importe leur filière. Mais aujourd'hui,
j'espère que ça a changé parce que maintenant, avec tout ce qu'on connaît, quand même.
Eh bien, pas tant. Pour être formateur, on est en retard. Donc, pour parler de pédagogie, pour reprendre le temps de Jonathan, il y a un vrai travail aussi de la part des organisateurs. Mais c'est là aussi où je dis qu'il y a un vrai travail aussi de la part des trailers. C'est qu'il faut qu'ils gagnent parfois, et je m'inclus dedans, en humilité sur OK, on participe à la course du coin, on n'est pas champion du monde. Il faut rester humble.
Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On enlève les podiums? On fait quoi?
Non, c'est pas forcément enlever les podiums, mais nous, on réfléchit à des comme toi, Jonathan, à des lots qui sont faits localement, etc. Mais, putain, des fois, ils préfèrent le t-shirt, la paire de Hoka ou...
Je trouve que, pas contredire tes propos, c'est... parce qu'on est très d'accord, je pense, depuis le début sur tout ce qu'on évoque, mais c'est...
Alors qu'ils sont concurrents
sur les
termes.
Malgré tout, non, même pas. C'est globalement, je trouve que c'est minime. C'est minime les gens qui...
Bien sûr, c'est minime.
C'est vraiment très... Enfin, ça touche que quelques personnes, quoi. Donc,
mais c'est ceux qui font du bruit, généralement.
Mais c'est ceux qui font du bruit,
voilà, c'est ça.
C'est comme pour l'histoire des remboursements à 75%, il y en a qui sont pas contents, mais on les entend bien.
Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup quand même.
Et...
Après, ouais, revenir à l'événementiel, le meilleur événement, ou en tout cas le plus écologique, c'est l'événement qui n'existe pas. Ouais.
Mais on a besoin d'événements.
Mais on a besoin aussi, ça revient à la discussion de tout à l'heure.
Voilà,
on
ne
peut pas
a
tout interdire non plus. Quoi.
Et oui, des événements, encore une fois, dans cette idée d'informer aussi le public, de proposer des choses. Voilà, tu as donné des idées. Nous, on travaille avec une AMAP aussi qui vient faire des conseils sur la nutrition, etc. On fait un repas qui est 100% local.
Banane, grenade et...
De l'herbe.
de l'herbe du champ.
Non, mais on essaie. Après...
Puis à toute échelle, hein, pour être sur différents milieux de l'événementiel, notamment avec le Street Art Festival de Grenoble, qui a quand même rien à voir par rapport à l'événementiel sportif.
C'est de l'événementiel. Et on sait que c'est un secteur qui bouffe de l'énergie.
Ouais. Les street artistes qui viennent de l'autre côté de la planète pour faire la fraise, voilà. Tout est dit. Mais ceci dit, il y a des grosses volontés, moi je le vois, et j'étais impressionné, notamment par rapport aux bénévoles, l'équipe organisatrice et coordinatrice du festival, la volonté de réduire au maximum l'impact malgré tout. Tout ce qui est repas, c'est que des invendus, c'est les boulangeries, les petits-déj du matin, c'est que des récupérations de la boulangerie d'à côté.
C'est
des partenariats souvent avec la boulangerie bio, Kern, le pain des Kern, pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est vraiment des... Il y a malgré tout plein de choses qui se passent, qui changent, et des prises de conscience qui évoluent. Pour travailler en tant que prestataire pour d'autres boîtes d'événementiel, j'ai voulu aborder un peu ces sujets, ne serait-ce que par exemple des éco-cups. Éco-cups sur des événements, sans mettre des éco-cups sur le ravito, ou en tout cas de gobelets en plastique, c'est très facile à mettre en place. Ça coûte presque rien, et surtout pour l'organisateur, ça coûte encore moins cher. Et ça te demande moins de temps d'organisation, moins de stockage, moins de logistique. Enfin, t'as tout gagné.
Ouais.
Mais il y a quelques années, c'était quelque chose d'inabordable, quoi. Là, par exemple, l'année dernière, on est venu vers moi. Bah, t'as quoi comme solution? T'as quoi comme idée? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour limiter notre impact? Il y a malgré tout des prises de conscience plus larges qui émergent. Et sur tout le rayon d'action qu'on peut faire sur les événements, c'est vrai que c'est des idées de couper les ravitaux sur les courses, qu'ils soient entièrement autonomes.
Bah, est-ce que c'est ça? En même temps, quand tu vas t'entraîner, t'es autonome. Donc voilà, à un moment.
Mais est-ce que c'est... C'est pas encore totalement dans les mœurs, hein, je pense. Enfin, le trail de la dent de crawl, ça doit être les seuls, je pense, à ma connaissance en tout cas.
Maintenant, ils le font. Là, j'ai vu qu'il y avait championnat de France où il n'y avait pas de ravitaillement en trail. Ouais. Et je voyais les commentaires. Ah, super, extraordinaire, retour à la nature et tout.
Bah, voilà.
Il y a d'autres courses. mais encore une fois, entièrement d'accord. En tout cas, il ne faut pas aussi que ça vienne laver nos âmes, entre guillemets, en disant c'est bon, je fais une bonne action, je participe à un trail local. Prendre conscience, et le sport est une des valeurs indispensables à la vie, mais prendre conscience que la planète se dégrade, que quoi qu'on fasse, on pollue. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut polluer dans une moindre mesure? C'est un travail quotidien, quoi. C'est être exigeant moralement avec soi-même, vraiment, et se remettre en question, mais c'est une philosophie de vie, se remettre en question, je sais que je ne sais pas, comme disait Aristote, c'est... Voilà, c'est pas parce que je pense avoir compris à l'instant T comment je pouvais résoudre ce problème que c'est définitif.
Dans 10 jours, ça peut évoluer.
Et dans 10 jours, ça peut arriver. Et c'est finalement pareil pour nous, organisateurs de trail. on doit sans cesse se remettre en question, tenir compte des nouveautés. Et pour ceux qui n'ont pas connaissance aussi de ça, il y a une vraie question de vulgarisation de l'information. Et c'est ce que je reproche aussi à toute une partie de l'écologie, que ce soit parti politique, collapsologue, c'est que par moment, ils mettent le débat à un niveau qui est trop élevé, sans que ce soit de l'éducation. Mais alors bien sûr, il faut qu'on fasse, les citoyens doivent faire un effort, mais par moment, le débat est trop complexe. Et ce qui fait qu'on n'a pas envie...
Parce que le sujet est complexe.
Parce que le sujet est complexe. Ouais. Mais...
En tout cas, quand tu mets le doigt dans l'engrenage, ouais, après, ça devient complexe.
L'objectif le plus complexe dans la vie, c'est de faire simple, généralement. Hein, organisateur, coureur, dans la vie en général. Mais tout ce qui se comprend bien peut aussi bien s'expliquer, s'énoncer clairement. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail de vulgarisation. Et peut-être que c'est à nous aussi, organisateurs, de se dire, on se met tous autour d'une table à un moment et on se dit, ben, quelles actions communes, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser quelque chose autour de l'écologie, dire on alloue une partie de notre CA, toutes les courses, à une association chaque année, faire une cagnotte. On pourrait y réfléchir, hein, nous aussi, on pourrait progresser sur ça. Mais c'est pas facile, on essaie. Mais il y a aussi, encore une fois, c'est une histoire d'humain. Derrière, il y a des sensibilités différentes. On n'est pas tous au même niveau de réflexion. J'en suis pas encore à ma ferme. J'aimerais.
C'est vrai qu'il m'a fait un peu rêver là.
Ouais, moi aussi. Moi aussi. J'en suis pas encore là,
mais c'est ça, la place, hein.
ça viendra peut-être. Après, il faut aussi savoir se féliciter des petites avancées, savoir célébrer les petites avancées tous les jours, manger local, éviter de gaspiller. Éviter de gaspiller.
Rien que ça, mais c'est tellement dur déjà.
Les grandes surfaces.
Mais les grandes surfaces.
80, je ne sais plus si les chiffres sont aberrants par rapport d'ailleurs.
Ouais. C'est dramatique. Ouais.
80% des déchets alimentaires viennent des grandes surfaces.
Et pareil pour certaines organisations de courses. Hein.
Oui.
Parce que c'est bien beau de la façade, mais le back-office qu'on ne voit pas en termes de gaspillage, il y a certaines organisations de...
qui prévoient trop de ravitaillement.
C'est pas que le ravitaillement, ça. Après, on peut le dispatcher entre bénévoles, mais c'est le tri qui est mal fait, c'est... Il y a des quantités de gaspillage, des affiches, des flyers en quantité.
Ça existe encore, les flyers.
Je vais rien dire cette année parce que nous, nos affiches, malheureusement, on en avait fait imprimer 100 et on n'a pas pu les. Il n'y a pas eu d'intérêt. Donc,
ouais, forcément. Ouais.
En papier recyclé quand même.
Moi, les flyers, j'ai arrêté. Non, tu n'as jamais fait peut-être.
On en fait un petit peu, mais juste pour nos partenaires. Ouais. Ouais,
pour
nos partenaires.
Pour histoire, ouais,
histoire de les mettre et aussi dans quelques lieux d'entreprise. Après, oui, non, on essaie de promouvoir un maximum le zéro papier, mais après, il faut bien réfléchir que quand on fait du digital,
c'est
parfois,
pas bien mieux.
C'est pas bien mieux. Donc,
c'est dramatique le digital.
Il faudrait ne pas communiquer finalement.
Mais c'est ça, c'est ce qu'on dit.
C'est
ça, on n'existe plus. T'existes plus.
Mais je trouve que déjà, c'est pertinent de se poser les questions là. Et c'est intéressant aussi d'en parler avec un autre organisateur de course parce que ça permet de confronter, de se conforter aussi, de. Penser un peu plus à la globalité.
Après, il a pas invité n'importe qui, la Fabien Hachemaillier.
Bah, il en manque un, mais l'autre aussi, il était un peu écolo. Donc...
Ah, okay.
Clin d'œil à Théo Michelletti, qui fait aussi attention à ce qu'il fait de dose de sport.
Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on est dans la même mouvance. Quoi. Et ça, c'est important de se dire qu'il y a des choses de bien qui sont faites.
Mais je vais vous avouer qu'en fait, je ne connais pas les autres. Non, en fait, s'il y en a qui s'en foutent de tout, si je les connais, mais ils sont très gros. Je ne vais pas dire leur nom parce que je travaille avec eux aussi, mais il y en a qui sont très très gros, qui tiennent en trois lettres. Et eux, bah, forcément, c'est bouteilles d'eau. Et je vois pour travailler avec eux que c'est. On n'y est pas encore dans l'écologie. Comme le Tour de France, voilà, pour prendre un autre événement, comme ça, je ne suis pas dedans, je m'en fous. Mais le Tour de France, voilà, c'est clairement pas écologique. Ah bah, et ça le sera jamais. Du moment que ce truc.
Ne serait-ce que les voitures qui suivent, le nombre de voitures qui suivent les
Du moment que ce truc existe, ça ne sera jamais écologique. On ne pourra jamais en faire un truc écologique. Donc voilà.
Facile ou à huis clos.
Voilà.
Que les coureurs en vélo.
Okay.
Et un vrai Tour de France en vélo, de vélo, pas d'avion.
Ouais. Ah,
ils viennent en vélo.
Ils viennent à vélo et puis les chambrières autour du cou. Mais ça a une espèce de saveur quand je vois les photos, pour parler de ça.
Oui,
vieilles photos du Tour de France.
Ça a terre battue.
Le pneu autour du cou, la chambrière. Il y a une
et
saveur.
Le rouge dans le bidon.
Ouais,
le rouge dans le bidon. Ouais.
Oui, c'est de la grenadine,
pas,
bien sûr.
Pas de goudron aussi.
Ouais, voilà. Non, mais il y a une saveur quand même dans ces photos. Tu dis, c'est incroyable. Alors que là, le mec, il tend la gourde, il lui pousse au cul pendant 5-10 kilos.
Par définition, on est toujours nostalgique. Hein. Par définition, l'être humain est nostalgique. Donc je
reviendrai pas avant. J'aime bien les docteurs et la médecine. Hein. Je reviendrai pas avant.
Je me posais la question, dans 40 ans, quand on regardera en arrière les événements qu'on organise, je me dis, est-ce qu'on sera nostalgique de ces événements? Est-ce qu'on se dira, c'était mieux le monde en 2020?
Je ne sais pas dans quel état il sera en tout cas le monde.
Ou est-ce qu'on va être les générations qui allons faire changer les choses et se dire, Et le mieux de demain, le monde de demain sera en tout cas, c'est pas tant meilleur, mais sera plus en phase avec nos valeurs et plus sobre.
Beaucoup plus chaud déjà.
Ouais.
Mais viens, on se fait le moment prospectiviste, c'est ça. Parce que dans 10 ans, c'est trop court, même si ça va très vite. Température, ça va très vite. Mais on va se dire, on est plutôt jeune autour de la table. 50 piges, quand on aura 50 piges, dans vingtaine d'années. Qu'est-ce que le trail, l'événement, ce sera quoi? Déjà, est-ce qu'on sera encore proche? Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres Covid? Est-ce qu'on aimera toujours courir? Est-ce qu'il y aura un nouvel événement? Est-ce que ce ne sera pas en virtuel, tiens? Avec le casque sur la tête et en train de courir.
Ça existe déjà.
Ouais, mais c'est pour ça.
Ça existe déjà.
Est-ce que ce ne sera pas ça?
Bah, pour ma vision, pour répondre à la question, moi, clairement, je n'ai pas de réponse.
Ah ouais?
Je n'ai absolument pas de réponse.
Merci, tu vois, ça va plus vite avec Jonathan.
Je veux juste te dire qu'il fera beaucoup plus chaud. Là, c'est clairement.
Essayer
de se projeter, c'est. Ce serait un travail d'ailleurs à faire. Moi, je me suis jamais. C'est pas un exercice que je me suis amusé à faire, peut-être.
On a deux minutes. En mois d'août, au mois de juillet, au mois de juin, est-ce qu'on va encore faire des événements? Ou alors est-ce qu'il faudra partir à 4h du matin pour arriver à 7h et on n'en parle plus? Parce qu'il y a un moment, ça va être infernal.
Ça, peut-être, ouais, c'est une des pistes, effectivement, de faire des départs très tôt le matin.
Super tôt.
Est-ce que ne serait-ce qu'il y aura des lieux, cette période-là, durant ces 3 mois, est-ce qu'on pourrait ne serait-ce que courir?
Voilà, est-ce que ce ne sera pas cuit, en fait, pour le vrai?
Alors nous, dans nos latitudes, ça devrait aller, mais il y a certaines latitudes, non, ça va être clairement cuit.
Ah, je sais que ça chauffe quand même en pleine, tu vas en pleine, même chez nous, l'été, c'est l'été, quoi. Mmh. Le soir, il fait 27, c'est quand même assez incroyable.
Bon, au lieu d'aller courir, certaines courses qui peuvent se faire, dans la vallée de la mort, ils viendront la faire dans la vallée de Grenoble.
Voilà. Exactement.
Non, c'est vrai, c'est aussi une question de l'avenir de l'événementiel, qu'il soit l'avenir proche. Est-ce que les gens vont vouloir se tenir les uns à côté des autres dans les mois qui arrivent? Parce qu'il y a encore. Moi, je sais qu'il y a le marathon de Marseille qui a été décalé de mars ou avril, il était à novembre. Est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce que les gens seront proches les uns des autres? Est-ce qu'il n'y aura pas l'histoire de deuxième vague? Parce que je n'y connais rien.
Ouais.
Est-ce que, tu vois, donc l'événement, s'il y a déjà dans l'avenir proche, qu'en est-il? Et dans l'événement, on ne sait pas. Mais alors déjà.
Après,
dans 20 ans, c'est encore pire.
Ce qu'il faut bien se dire, c'est que le Covid-19, à l'échelle de l'histoire et de l'humanité, c'est quand même un micro-événement. Hein.
Oui, mais il y a d'autres choses. Oui.
C'est juste qu'on est tellement dans une société de la
prévention,
où ça va très vite, va très vite, que pour nous, ça a été la fin du monde.
BFM, c'était
insupportable.
J'ai pas regardé, mais c'était
ne regardons pas ces chaînes-là boycotter. De toute façon, par principe, il faut boycotter
tous ces maximum médias,
la télé. Mais le trail de demain, c'est une vraie bonne question. On pourrait se mettre autour de la table et essayer de travailler, ça, mais avec des coureurs également. Ça va dépendre aussi, pas que des organisateurs, ça va dépendre aussi du milieu industriel et de ce qu'ils font. Hein, parce que là, en 10 ans, le panier moyen...
Mais t'as vu les chaussures
comment
sans parler des montres, hein, parce que les montres n'existaient pas avant.
Si on parlait de la technologie, c'est pas la solution non plus. Donc,
c'est exactement ça.
En virtuel, ça sera pas... Ouais. Pour moi, je le souhaite vraiment pas. Quoi.
Non, mais même la technologie des pompes. Là, j'ai vu les dernières Nike.
Oui.
Les mecs, du coup, finalement, faut ouvrir, à mon avis, une autre catégorie de course. Parce que du coup, s'ils courent plus vite que les autres avec leurs chaussures, est-ce que c'est pas une autre catégorie de course?
C'est deux philosophies de vie, en fait.
Ouais,
c'est performance, pourquoi je cours? C'est la question de base existentielle, c'est pourquoi je cours? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Moi, quand j'étais plus jeune, parce que j'avais besoin aussi de m'affirmer, j'avais envie de courir vite. Maintenant...
Maintenant, il a une copine, il s'en fout.
Maintenant, ravitaillement, s'il faut parler une minute avec le bénévole, je vais parler une minute, je vais manger mon bout de fromage local et je vais repartir. C'est juste de quelle est la notion du temps, quelle est la notion de compétition. Et ça, c'est les questions qui sont propres à chacun. Nous, organisateurs, on peut accompagner. On peut pousser les événements locaux, sympas, etc. Ouais. Mais les industriels doivent aussi prendre part au jeu, entre guillemets, ou au combat. Parce que sinon, en 2050, où est-ce qu'on sera? Où est-ce que sera le trail? Il va y avoir la question aussi des Jeux Olympiques qui va vite entrer en jeu. Est-ce qu'il y a du trail aux Jeux Olympiques ou pas? Ça va.
Oh mon Dieu.
C'est quelque chose.
Qui dit JO dit dopage.
Après, je pense que l'aspect compétition, c'est ancré dans l'humain.
C'est toujours là.
Je pense que ce sera toujours là.
Ouais,
on ne pourra jamais le dissocier. Mais après, comme on voit, surtout dans l'esprit, le trail, sans parler d'esprit trail, mais le trail, les gens, pour la plupart. 80-90% des trailers, même voire plus, ils font ça vraiment en dilettante, quoi.
Ouais.
Ils font ça entre copains, c'est bonne ambiance, ils viennent en voiture ensemble, pour la plupart, faut pas l'oublier. On est une pratique qui reste très loisir.
Moins qu'avant.
Un peu moins qu'avant. Ça se professionnalise un peu plus.
Mais comme toutes les pratiques sportives, en
comme
soi,
toutes, voilà.
Bien sûr.
Forcément, ça va proportionnellement. Ça a complètement explosé ces 10 dernières années. Forcément, il y a le niveau déjà global a explosé et puis la densité, quoi.
Mais alors, le niveau a explosé parce que de toute façon, il y a aussi plus de participants. Donc, il y en a qui auraient peut-être jamais foutu les pieds en montagne et puis ils ont vu des photos sur Instagram et tout. Ils se sont dit, je vais mettre à courir. Donc, il y a plus de monde, donc aussi plus de performances.
La montagne, oui, elle sort un peu du triptyque.
On en oublie presque là.
Métro, boulot, dodo, c'est aussi ça, cette reconnexion, ça devient quelque chose de très tendance d'aller à la montagne
c'est
aujourd'hui.
Ça.
Faire des vacances en été à la montagne, il y a 15 ans de ça, quand on regarde les statistiques.
Ça, tu fais rire.
Tu fais rigoler les gens, c'est clair. Non, c'était pas du tout à la mode.
C'est, et du coup, il y a.
Maintenant, il fait tellement chaud sur la plage que tu te poses la question.
Surtout, d'autant plus vrai avec la sortie du confinement.
Ah ouais, mais.
Les week-ends en sortie de confinement sur les sommets.
Incroyable. Déjà que là, dans le crawl, qui est un sommet connu quand même, dans des pics de fréquentation, des fois, il y a 3000 personnes. Hein.
Ah ouais.
Il peut y avoir jusqu'à 3000 personnes à jour. C'est énorme.
On va mettre des péages.
Il faut regarder les voitures. Il y avait eu des questions autour de ça, de parking, etc. Mais il faut regarder les voitures. Enfin, c'est incroyable. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas non plus utiliser la montagne ou le sport outdoor. Comme un élément de satisfaction pour dire je protège la nature, parce que je fais un sport nature de reconnexion. Non, il faut rester humble.
Les études anglaises là-dessus, justement, prouvent tout le contraire. Hein.
Ceux qui aiment l'outdoor
et dans l'événementiel, clairement, on n'est pas bon. Hein.
Ouais.
Il n'y a pas 50 études, il y en a deux, elles sont anglaises à ma connaissance,
ouais,
peut-être d'autres. Elle conseille pas tellement quand on est plutôt dans la protection et la prévention.
Ouais,
Mais voilà, il y a de réelles réflexions.
Sur l'avenir du sport.
Oui, mais et de réflexion sur soi-même hein, aussi. Hein.
Ouais.
C'est la somme des individualités qui font aussi le collectif, comme le collectif peut impacter la somme des individualités. Hein, mais il faut travailler sur soi-même.
Un autre imaginaire, donc des sportifs pros qui voyagent moins. Mmh. Même s'ils sont toujours. Mais alors, justement, comment ils deviennent pros s'ils voyagent moins? C'est un peu le cercle.
Mais ça, c'est nous qui avons créé ça.
En pro, en France, réellement, il n'y en a pas. Quoi. Après, qui ont une image. Enfin, pro, comme on l'entend, rémunéré pour pratiquer, il n'y en a pas, à ma connaissance, en France.
Par exemple, Kylian Jornet, est-ce qu'il ferait rêver s'il reste. Parce que je crois qu'il habite en Norvège maintenant.
Ouais.
Est-ce qu'il ferait rêver s'il reste en Norvège toute l'année ou qu'il va juste à côté, peut-être en Suède, faire une course ou deux, mais qu'il ne prend pas l'avion, qu'il ne va pas sur le Mont Blanc? Est-ce qu'il ferait encore rêver?
Je sais pas. Après, c'est un profil tellement. Il faut regarder, c'est une balance des bénéfices et des inconvénients aussi, parce qu'il a un tel aura que quand il parle d'environnement ou quoi, ça rayonne plus que
n'importe qui.
Qu'Axel Pitté. Hein.
Pour l'instant, Axel, là, tu viens de passer sur RTS. Donc, crois-moi que ça va y aller.
C'est toujours cette question que je me demande avec ces 2-3 élites, est-ce qu'ils n'ont pas cette mission d'ambassadeur quand même Je sais pas, j'ai pas la réponse.
Pense que c'est un ensemble, comme tu disais, c'est vraiment un ensemble. Tout le monde doit être ambassadeur, essayer de rayonner un maximum, mais après, ce qui reste hyper délicat, on le voit un peu en repas de famille, mais c'est l'angle d'attaque, quoi. Comment on va aborder le sujet, parce qu'il y en a, ils sont complètement déconnectés. Il y en a qui sont complètement déconnectés par rapport à tout ça.
Il y a les attaques, hein, décroissants, les tu veux revenir à l'ancien temps, tout ça.
Les fameux mots.
C'est un peu triste.
Les bobos.
Les bobos aussi, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça.
C'est l'angle d'attaque. Hein, et
c'est difficile,
très très délicat.
Y compris dans les organisateurs, dans les organisations d'événements, c'est l'angle d'attaque.
Après, on voit par exemple, pour en revenir à Xavier Thévenard, son annonce de ne plus prendre l'avion, c'est hyper positif.
Ouais.
Ça a été hyper positif. Quoi.
Il faut croire encore dans.
J'ai pas tout lu, je me suis pas amusé à lire tous les commentaires. Mais en tout cas, tous ceux qui remontaient le plus dans le fil d'actu, là, ils étaient très très positifs. Et chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Tout le monde doit être acteur, ambassadeur.
Ouais.
Mais on n'a pas tous la fibre pour transmettre les messages. Et trouver le bon moment, sans mettre le feu aux poutres, quoi, parce que c'est des sujets comme la politique, c'est très délicat.
Comme l'avait dit Nicolas Hulot, du coup, faire concorder la fin du monde avec la fin du mois aussi pour beaucoup de Français, hein, quand même.
C'est vrai qu'il y en a qui ont dit qu'il faut être sobre, mais il y en a qui n'ont pas le choix. Ils le sont parce qu'il n'y a pas
de moyens. Ils ne polluent pas. La question ne se pose pas. Ils ne polluent pas. Ils n'ont pas de voiture.
Le smicard ou celui qui est en dessous du seuil de pauvreté est plus sobre que nous.
Largement.
En tout cas, qui a revenu. Enfin, de ce qu'on gagne, plus sobre. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder aussi l'humilité.
Complètement.
Et être sans cesse en. Le fait de ne pas savoir, quoi. Je sais que je ne sais pas. Je maîtrise quelque chose, mais c'est pas la globalité. C'est complexe, le monde dans lequel on évolue.
Oh oui, plus que jamais, je crois.
Et il faut vraiment garder une certaine humilité, un certain recul par rapport au savoir. Et c'est ça qui est beau aussi en montagne, parce que quand on va en montagne, on est obligé d'être humble, parce qu'en trail, sur certains parcours ou en alpinisme, quand on se rate, quand on fait une erreur, c'est adios. Il n'y a pas de deuxième chance. Donc, il faut vraiment rester humble et ne pas avoir de certitude. Ce qu'il y a de pire dans le monde, c'est d'avoir des certitudes, quoi. Des certitudes sur demain. Alors, on peut en avoir en disant, on peut se baser sur les études. Mm-hmm. Mais dire que le monde va guérir par lui-même parce que la nature a toujours fait ainsi. La nature, elle faisait avant ainsi.
Sans nous aussi, ouais.
Elle faisait sans nous. Ouais. C'est quand même une différence fondamentale, quoi.
Ah, mais moi, pour revenir à ce sujet, là, je suis convaincu que ça va se remettre d'elle-même, mais après, il faut voir les.
Est-ce qu'on sera bien avec nous?
Ah, bah non, et en combien de millions d'années?
Est-ce que l'espace humain sera encore.
Est-ce qu'il y aura encore des trails?
Est-ce que elle sera toujours sur Terre?
Ouais. On en a donc un avenir flou, tant parce qu'on ne sait pas vraiment comment il va se passer pour le trail, que ce soit, on l'a vu, dans le long terme, à 20 ans, on ne sait pas. Mais ce qui est encore très intéressant, c'est qu'on ne sait pas aussi sur la fin d'année comment ça va se passer pour les événements sportifs, sur la proximité, tout ça, deuxième vague ou pas. Donc c'est vraiment affaire à suivre, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez des petites bouteilles à la mer que vous pouvez dire maintenant et que je vous ressortirai quand je vais vous réinviter dans un an pour parler de votre organisation de prochain trail? Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre...
Se faire passer un message, c'est ça, en quelque
sorte.
Ouais,
c'est ça, tu donnes rendez-vous à Jonathan Rouquayrol dans un an, tu dis, j'espère que mon événement, il sera comme ça, c'est l'axe d'amélioration que je veux. Axel, c'est pareil pour toi. C'est dur, hein, c'est très dur.
Déjà, filer un petit coup de main à une course voisine qui est l'Échappée Belle, qui est une course que j'aime bien en termes de valeur, donc là, c'est pas un trail que j'organise, et ils recherchent des bénévoles. La course se déroule fin août et en termes d'esprit local.
Est-ce qu'elle y est fin août? Elle est maintenue
Pour l'instant, elle est maintenue. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jonathan. Pour moi, c'est une belle course quand même. Il y a de belles valeurs. C'est sympa. Ils essaient de faire quelque chose. Moi aussi. Donc, ils recherchent des bénévoles. Donc, il ne faut pas oublier que les courses, c'est aussi le résultat de tous les bénévoles qui viennent apporter leur goutte d'eau et qui vont faire quelque chose de sympa. Donc moi, mon souhait pour l'an prochain sur le trail de la Crawl, de continuer vraiment dans cette démarche de sobriété et de rester une course sympa, quoi. Enfin, pas prise de tête, pas de boulard ou de melon, comme j'aime bien dire. On court parce qu'on est copains, parce que c'est sympa. Si on peut faire des partenariats avec des entreprises, des marques, des assos sympas, tant mieux. Mais voilà, essayer d'être dans cette idée de promouvoir humblement le trail de demain.
Et s'il y a un effet rebond, tu as 5000 inscrits, tu ne prendras pas 5000 inscrits?
Ah non, il y a déjà cette année sur le 23 km, je n'ai pas pris l'équivalent de 150 avec l'équipe, avec Philippe, hein, Clavaux, le co-organisateur, on n'a pas pris 150 participants. Et c'est comme ça. C'est comme ça, parce que dès qu'on commence à déroger de la règle, à l'exception, elle est pour l'un, pour l'autre. Et... Non, c'est comme ça. Et puis, sinon, on perd ce côté authentique et qualitatif d'accompagnement un peu aussi sur l'environnement,
avec les coureurs,
la proximité,
aussi.
Parce que...
C'est moins humain, on n'est plus à l'échelle humaine.
Ça reste du sport et de la fête, on se retrouve pour passer un bon moment tous ensemble, quoi.
Mais je connais des belles courses, pour travailler aussi sur le Trail Tour, avec le Trail des Passerelles. Montenard, qui est quand même une grosse organisation, il y a une vraie ambiance et on le voit, ça se ressent, c'est une vraie fête, quoi. Et malgré tout, c'est vrai que cet aspect festif, etc., convivial, on peut même le retrouver dans des événements assez conséquents pour le Trail des Passerelles, qui est le plus gros trail du
département. J'en doute pas, il faut faire les départs en sas, quoi, pas tous en même temps.
Mais c'est une fête, il y a vraiment, tu vois, le village, tous les villageois par eux-mêmes, ils ont créé des dynamiques d'animation dans les villages.
Il y a un vrai investissement participatif,
local. Très très fort et très chouette pour les aider bénévolement chaque année, là. C'est vraiment un grand plaisir. Après, pour rebondir, donc moi c'était mon petit clin d'œil, du coup la course à soutenir, mais c'est vrai que j'en ai déjà aussi pas mal. Moi clairement je sais pas, par rapport à mes projets aussi et mes convictions à long terme, en tout cas moi j'ai vraiment envie d'être sur d'autres choses, clairement. On parlait de décroissance, c'est vraiment ça, de revoir complètement sa manière de vivre, mais en communiquant autour de ça, vraiment concrètement, pas autour forcément que de l'événementiel. Après, dans un an, dans deux ans, trois ans, non, je pense que j'aurai vraiment encore un pied dans l'événementiel, parce que comme on peut pas, se reconvertir, passionné aussi, et puis se reconvertir, c'est pas facile, travailler la terre, et puis clairement, il faut le dire, financièrement, il faut faire vivre, j'ai deux enfants, il faut payer le loyer aussi, le crédit. Même si on essaie de passer au maximum par un emprunt participatif. Mais voilà, en tout cas, pour dans un an, comment je vois ma course, clairement, une échelle festif et humaine, taille humaine, qui fasse beau temps, pour qu'on ait la boue de Chartreuse. Mais quoique, Quoique le Winter Trail de cette année, on fait souvent des petites études auprès des participants d'enquête de satisfaction. Et cette année, on a eu les meilleurs résultats depuis moi que j'ai pris le truc il y a 5 ans sur la satisfaction des coureurs. Il a plu tout le week-end. C'était de la boue, il n'y avait même pas de neige. Donc, des fois, c'est un peu étonnant.
Voilà, exact.
Mais toujours rester à taille humaine, ça, c'est une évidence. Et être au plus près des coureurs et surtout des bénévoles. C'est vrai qu'on n'en a pas trop évoqué, mais un événement, enfin comme les coureurs, un événement sans coureurs ou sans bénévoles, ça n'existe pas. Enfin, moi, je ne sais pas pour Axel, mais moi, c'est trois quarts de mon temps, c'est pour les bénévoles. Enfin, c'est la majorité de mon temps sur l'organisation, c'est les bénévoles. Bien les accueillir, leur faire un truc bien chiadé en parlant poliment, les héberger, leur faire à manger, voilà, qu'on soit tous ensemble. Et ça, ils le rendent super bien parce que mon réseau augmente de chaque année. Voilà, donc toujours garder cet esprit et cette philosophie, hein, montagnarde, j'ai envie de dire. Quoi d'autre ? Ouais, j'aimerais bien effectivement qu'on ait plus de l'eau et qu'on fasse une belle action avec des associations locales et accentuer ce qu'on devait faire cette année. On avait avec le département. On était proche là, on avait un partenariat pour le mois de mai, on avait deux stands entre le parc de Chartreuse et le département de l'Isère sur la protection de la nature et de l'environnement. J'ai oublié le terme exactement du service, ils m'en voudront pas.
C'est toujours compliqué.
C'est toujours compliqué. Ils devaient venir, voilà, c'est ceux qui gèrent les ENS, en gros, les espaces naturels sensibles, et ils devaient venir pour justement faire de la sensibilisation au sein de mon événement. Donc grossir ça, effectivement, des partenaires, comme tu disais, qui ont des valeurs, des sociétés, des entreprises qui ont des valeurs et pour que ça change un petit peu. Pour revenir à ça, c'est vrai que là, a priori, nous, le partenariat qu'on avait avec les marques de là-haut, ça va changer pour l'année prochaine. Donc on va voir aussi comment ça va se dérouler, comment ça va se passer.
On a hâte de voir ça. Axel Pitté, merci beaucoup. Jonathan Roquerolles, merci beaucoup. On vous souhaite le meilleur pour l'avenir et on vous suit de très près. On vous réinvitera de toute façon dans un an pour vous passer un peu de pub pour vos événements respectifs et on verra où ça en est. Vous étiez sur RKS dans l'émission S comme sport. On vous souhaite une excellente soirée.
RKS, S comme sport. S comme sport.